Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 267e numéro de notre podcast, un numéro qui va reprendre une ancienne tradition que nous avions il y a une ou deux saisons de cela, les émissions Versus. Et pour le retour de ce type d'émission, nous allons opposer Batman à lui-même. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 267e numéro de Comic Story. Cette 267e émission, Anthony.
Bonsoir.
Et Léo.
Salut.
A priori, deux Batmaniacs.
Oui, on peut le dire.
Je crois que si on avait choisi les deux plus grands Batmaniacs de l'équipe, je pense qu'ils sont là. Allez, avant de faire une espèce de classement, puisque pour expliquer un petit peu comment nous allons procéder, alors que évidemment mon chat choisit ce moment-là. coucou. Donc nous allons en dernière partie d'émission établir notre top 10 de nos 10 versions de Batman préférées. Il y en a tellement qu'on a largement de quoi faire un top 5 voire 10. Mais avant ça, on va revenir quand même sur les plus grands auteurs qui sont passés sur Batman, sur le personnage, les artistes un peu les plus emblématiques qui nous ont proposé peut-être les plus belles versions graphiques de Batman. Et on parlera évidemment des quelques grandes adaptations. Et il y en a, des adaptations.
Oui, il y en a.
Elles ne sont pas toutes grandes, mais il y a des adaptations.
Ah. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors peut-être qu'à la fin de cette émission, à la fin de nos tops respectifs, on sera d'accord, on arrivera à se mettre d'accord pour dire qui est le Batman.
Oui,
bien sûr.
Mais je suis pas sûr.
On a de l'espoir.
Je suis pas sûr parce que je pense qu'on va avoir des tops très différents. Et...
celui de Snyder.
Si vous avez aussi mis en premier celui que moi j'ai mis en premier, ouais, bah il y a. Voilà, un miracle aura lieu.
D'accord.
Je me réjouis d'avance.
Allez, c'est parti, on va parler de quelques grands auteurs qui sont passés sur le personnage,
C'est dégueulasse.
Quelques grands runs. Oh, Clément n'est pas là et voilà, il faut que toi tu. C'est toi qui remplacerais Clément, Léo, franchement, j'aurais pas cru.
Oh non, c'est un épiphénomène, crois-moi, hein. c'est pas régulier.
C'est sale. Donc les grands auteurs, les grands runs, quand on pense à Batman, on pense à forcément quelques scénaristes. Là, tout de suite, si vous deviez donner un auteur sur Batman, j'imagine ce serait...
Moi, pour ma part, ce serait Grant Morrison.
Oui, voilà, c'est celui auquel je pense tout de suite, quoi, quand je pense à Batman, évidemment.
Moi aussi, moi, c'est plutôt... c'est la grosse synthèse, Grant Morrison, Snyder... Alan Moore, enfin j'en ai pas un moi perso en particulier, d'ailleurs ça se verra dans mon top, mais il y a une bonne synthèse quoi, beaucoup de gens qui se sont penchés sur le personnage et on fait quelque chose de bien.
Disons deux mots du run de Morrison, qui est celui que Urban a choisi de publier en premier en arrivant sur le marché, c'est pas pour rien. Bon, c'était un run très récent aussi, mais c'est quand même d'un commun accord à peu près dans la sphère comics, un des plus grands runs sur Batman, voire même un des plus grands runs dans les comics tout court.
Ouais. Oui, clairement. Oui. Donc il arrive, il a quasiment travaillé. Il arrive en 2006, il part en 2013, bah, juste avant les New 52.
Non, pardon, parce qu'il a, il est parti
ouais, pendant, ouais.
Batman Inc. Volume 2.
C'est vrai qu'il y a eu des conséquences sur une série, donc Batman Robin. Mm-hmm. Et donc ouais, donc sur le titre Batman, non pas sur le titre Detective Comics. Et en fait, Morrison, avec l'amour qu'il porte à l'industrie du comic books et aux âges d'or et d'argent du comic books, il va globalement faire la synthèse de tout ce qui fait et ce qui a fait le personnage de Batman, pas forcément Bruce Wayne, mais Batman, à travers une succession d'arcs tous plus iconiques et cultes les uns après les autres. Il va notamment créer le personnage de Damian, qui aujourd'hui a une place, qui est quasiment en haut de la pyramide DC, hein, on peut dire, puisqu'il a finalement sa propre série aujourd'hui en duo.
Il y a une série d'équipe avec les Teen Titans, et puis il a sa série avec
Jonathan. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il va faire Morrison? Et il va pas se démonter. Il va flinguer Bruce Wayne dans Final Crisis, et il va nous faire la série, peut-être la meilleure série de ces dernières années, Batman et Robin, enfin une de mes préférées en tout cas,
ah oui, non,
où il va mettre en fait Dick Grayson sous le costume. Et d'ailleurs, il y aura eu une petite, c'est avec la bataille où il y a tous les personnages du Batverse, c'est à ce moment-là aussi. Hein.
Oui, avec Battle for the Call et Tony Daniel.
Voilà, c'est ça, Battle for the Call avec Tony Daniel. Et du coup, voilà, on a ce duo Dick Grayson, Damian Wayne qui avait beaucoup de mal à s'entendre au début de l'arrivée de Morrison, qui là vont cohabiter comme ils peuvent et livrer voilà des passages très très savoureux, dialogués à la perfection, dessinés aussi avec minutie, notamment avec Frank Quitely sur le premier numéro, c'était sensationnel. Et il va finir dans une troisième saga. Donc Batman Inc. avec un concept totalement fou. Si vous voulez en parler de votre côté, enfin moi j'ai vraiment adoré ce Batman Inc. Il a pas, enfin il y a du pour, il y a du contre, mais moi je fais vraiment partie de ceux qui.
J'ai préféré sa première série Batman Inc. qui était vraiment géniale. La deuxième, oui était bien aussi, mais un petit peu en dessous.
Moi j'aimais bien.
Concept intéressant, c'est clair.
J'aimais bien aussi. Enfin les premiers volumes là, que j'ai lus, je sais plus si j'ai tout lu là. Je suis en train de regarder la liste, mais ouais c'était. C'est-à-dire que c'était couillu quoi.
Ah oui.
C'était vraiment couillu. Il aurait pu repartir dans des délires complètement foireux, etc. Mais le fait est qu'il aime le personnage. Il en a quand même fait beaucoup de choses. Il l'a quand même baladé dans pas mal de trucs. Et a priori, tu pouvais lui donner une certaine légitimité à tenter des trucs comme ça, quoi. Donc, ça donnait un nouvel œil dessus. Et moi, franchement, je trouve que c'était pas si mal, ouais.
Ouais, c'était vraiment super. Et on pourra aussi citer l'un de ses premiers travaux chez DC sur le personnage de Batman, Arkham Asylum.
J'ai une question. Il y a une inspiration pour les jeux ou c'est juste un rapport de titre comme il y en a beaucoup?
Alors l'inspiration, c'est juste que ça se passe. Enfin, le bouquin se passe vraiment à Arkham Asylum avec une emphase très prononcée sur la folie et le rapport à la folie dans sa globalité entre les personnages du Batverse. Et c'est illustré par Dave McKean. Donc c'est bon, il y a pas mal de reviews sur cette truc, donc on va pas forcément y revenir, mais le style graphique est très particulier et ça renforce ce côté très schizo du bouquin.
Oui,
mais du coup le rapport au jeu, c'est juste que les deux se passent dans l'Arkham Asylum et tu passes une nuit immergé dans l'asile, en sachant que le jeu est beaucoup plus ludique que le bouquin.
Ah bah j'imagine, voilà. Mais parce que enfin l'espèce de trait un peu sale mais en même temps très stylisé comme ça de d'Arkham Asylum, c'est quand même il y a rien de mieux pour t'immerger tout de suite dans le truc quoi. Il y a très peu d'auteurs qui ont réussi à faire ça, tu vois, c'est très.
C'était puis, très, très très fort. Ouais.
Voilà, parce qu'en fait le problème avec Batman, c'est quand même, enfin, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que si tu te l'appropries, tu peux faire des trucs complètement fous, s'approprier l'espèce de sombre, de ténèbres, de tout ce qu'il y a, tout ce qui navigue autour de Batman. On en parlera sûrement après avec les films. Mais si tu t'appropries ça, tu as la possibilité de faire des trucs absolument dingues. Et c'est pas facile de le faire. Dessiner Batman, ça doit être profondément excitant. Enfin, le scénario, etc. tout, mais se l'approprier et ensuite le mettre en scène, c'est encore une autre affaire. Et quand même, Morrison, c'est l'un de ceux qui ont qui ont compris le truc, qui l'ont enclenché et qui ont pu du coup se permettre de prendre des risques comme avec le Ink là, sans faire des gratinures autour du personnage.
Ouais. En face de ceux que voilà, Morrison qui a fait peut-être un des meilleurs Batman, il y en a un qui a fait peut-être la meilleure version détective de Batman, c'est Paul Dini.
Aussi. Oui,
dont le run est aussi sorti chez Urban Comics en trois tomes. Et qui voilà, c'est un de ceux qui a le plus mis le détective en avant. Là.
Oui.
D'ailleurs, c'était sous le Detective Comics, hein, il me semble.
C'était le Detective Comics. Bah, c'était en parallèle de Morrison.
Voilà, donc on avait quand même une espèce de période bénie à ce moment-là où on avait d'un côté Morrison qui nous faisait des trucs incroyables sur Batman et le côté un peu Batman le mythe. Et de l'autre côté, le détective avec Paul Dini, voilà, qui n'est plus à présenter. Et ouais, c'était quand même une sacrée, sacrée belle période que celle-ci.
Ouais, bah d'ailleurs, c'est celui qui va réussir à réutiliser Hush dans la saga, donc Heart of Hush, qui je la préfère au côté très popcorn du Batman Hush tout court, donc de Jeff Lubb. Là, on est sur quelque chose de plus intime avec la relation profonde entre Batman et Catwoman, avec ce Hush qui vient au milieu, qui vient détruire tout ça. On a un Batman plus faillible qui enquête, qui n'est pas invincible. Donc, c'était vraiment super. Et pour Paul Dini, on peut rajouter aussi son tout récent Dark Knight.
Oui, qui est finalement une histoire de Batman quelque part.
Voilà, qui a été reviewé, il me semble, sur le site.
Oui, bah, on l'a fait dans les bulles, il n'y a pas très longtemps.
Donc, la review est dispo. Mais Paul Dini, auteur ô combien indispensable sur le personnage. Donc on reviendra très certainement sur.
Il y a des chances qu'on revienne sur lui plus à la fin de l'émission. Oui.
Ouais. Donc oui, Paul Dini à lire obligatoirement en 3 tomes chez Urban.
À lire et à voir. Parce que
à lire et à visionner. Ouais.
C'est quand même quelqu'un qui a tout fait, quoi.
Paul Dini a officié sur l'écriture du scénario des jeux Batman Arkham.
Les jeux Batman Arkham, ouais, là pour le coup.
Ouais. Alors au moins le premier et le dernier. Il a aussi participé à l'Arkham Knight. Il a créé le personnage de l'Arkham Knight. Bon là j'y reviendrai plus tard, mais ça a été une déception pour moi. Mais je sais pas s'il a travaillé sur l'Arkham Origins, qui était l'épisode.
Je crois pas, Anthony, il me semble pas.
D'accord. Donc voilà, il a quand même participé un peu à tout ce qui se fait sur le Batman sur différents formats. Voilà. Un grand monsieur, ouais.
Ah bah ça. Et tu l'avais pas vu, Mathieu, à la PCE l'année dernière?
Paul Dini, non. Parce que au même moment, j'étais avec Monsieur Bruce Timm en train de faire la queue. Ah. Donc, bon, c'est une espèce de choix cornélien. Est-ce que je vais voir Paul Dini? Est-ce que je vais voir Bruce Timm? Et puis bah voilà. Bon, c'était
l'emporté. Ouais, je comprends.
Tu parlais tout à l'heure de s'approprier le personnage de Batman. Il y en a un qui l'a fait clairement, au point de le voler presque aux autres, selon moi. On en a parlé dans la dernière émission des Bulles, donc on va pas refaire un gros point sur lui. Voilà, reportez-vous à la 266, hein, où on a fait un focus sur son run récent qui s'est terminé dans New 52. Ouais. Je veux bien sûr parler de Scott Snyder. On ne peut pas ne pas le citer dans cette émission, parce qu'il a quand même, voilà, ça fait quand même maintenant plus de 5 ans qu'il est sur le personnage.
Oui, c'est un auteur qui a complètement approprié, qui a tenté de révolutionner, qui l'a tenu sur 52 numéros, donc là aussi quelque chose à lire si vous voulez lire du Batman, là pour le coup très physique, très surpuissant, infaillible, donc voilà, une autre direction.
Et puis c'est un mec qui a quand même fait des grands classiques, des grands classiques, on peut pas se départir, hein, genre Year One, Deuil de la famille, La nuit des hiboux, La cour des hiboux, tout ça, et puis pour une fois c'est quand même
c'est pas Year One, c'est Zero Year, et tu considères Zero Year comme un grand classique, toi?
Ah non, pardon, alors je dois comprendre. Non, j'ai rien dit, alors je enlève le zéro hier. j'ai confondu avec l'autre. La cour des hiboux, La nuit des hiboux, et au moins le deuil de la famille. Et puis, tant qu'à avoir un Snyder avec un ego, autant prendre celui qui fait des trucs bien sur Batman.
On prépare la troisième partie sur les adaptations tout doucement. Là. comment ne pas parler du grand Frank Miller quand on parle de Batman et des grands auteurs, voilà, Frank Miller, Alan Moore.
Oui, Frank Miller, oui. Alan Moore.
Ouais, c'est un mec qui a quand même fait Returns, quoi, qui est quand même un truc assez dingue. Et bon, le problème, c'est qu'il est, alors, il est très. C'est là en fait que, même si on n'est pas d'accord avec les opinions politiques de Frank Miller, le truc, c'est qu'il y a un côté ultra, il y a un côté, tu vois, violence dans Batman aussi, dans le personnage tel qu'on nous l'a un peu défini et tout. Et du coup, c'était bien d'avoir Frank Miller aussi sur Batman, sur ce qu'il pouvait apporter une vision au personnage, quoi, quelque chose d'un peu plus radical, un peu plus violent et tout, et que tu vois dans la manière de dessiner d'ailleurs, parce que genre TDKR 2, c'est quand même genre sale, et même le premier, c'est déjà une espèce de Batman très cru, quoi, au niveau des cases et tout, donc non, mais ça reste un point de référence dans Batman, ça c'est sûr.
Ouais, moi je serais plus, enfin voilà, Miller a fait ce qu'il a fait, il a révolutionné, enfin il a relancé le personnage de Batman, il a révolutionné celui de Daredevil, point Marvel du moment, c'est ouais. Fait. Mais je suis pas un adorateur du style de Frank Miller. Je reconnais son travail, je reconnais évidemment le talent immense qu'il a, mais voilà, c'est pas moi ma référence sur le Batman.
Moi de Miller, je garde Year One.
Ouais, il y a Year One, ouais.
Il est incroyable. Mais après, oui, effectivement, tout ce qu'il a fait sur The Dark Knight, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, oui, effectivement, je reconnais un travail un peu comme toi.
Mais c'est All-Star Batman aussi.
C'est pas ce que je préfère. Le point joke, All-Star Batman, oui.
Voilà. Bon, on est en roue libre là sur cette.
Après le point Marvel, le point blague, c'est fait. Bon, c'est bon, on va pouvoir cocher nos petites cases. et puis Alan Moore, ne serait-ce que pour Killing Joke, quoi, forcément.
Évidemment. Et pas pour cette espèce d'adaptation bidon dont on parlera tout à l'heure.
Ou pas.
Oui, Killing Joke, évidemment. Mais est-ce que Alan Moore, alors peut-être un petit trou de mémoire, est-ce qu'il a travaillé sur autre chose, sur le personnage de Batman?
Tu me poses une colle, parce que moi je ne retiens que ça en général. Il me semble qu'il avait fait un truc sur Clayface, mais je voudrais pas trop m'avancer, ça commence à sourire un peu loin.
Oui, en effet, Batman Mortal Clay, Batman Annual, voilà.
Et puis, qui rajoutait encore? Jeff Lubb,
Oui, Jeff Lubb.
Long Halloween, Dark Victory.
Ah, Long Halloween, je suis amoureux, moi.
Ah oui,
ouais,
oui.
Moi aussi. Oui. Pour l'anecdote, ça aura été l'une de mes premières lectures Batman, donc ouais, j'ai un grand affect. Ouais,
c'est pas dégueu pour commencer.
Autour de ces deux trucs, c'est brillamment écrit, c'est dessiné avec un style qui est très propre à Tim Sale,
ouais.
Une sorte de peinture dessinée, enfin vraiment particulier.
C'est super beau.
C'est dialogué à la perfection.
Double face.
Ouais, ouais, ouais. Et puis pareil, je trouve que ce qui ressort le plus, c'est Double Face et Catwoman.
Bah, c'est pas pour rien si Double Face, voilà, une des histoires de référence de Double Face, c'est que c'est Long Halloween.
Ah, ouais, c'est Long Halloween,
c'est vraiment super.
Donc, et Dark Victory qui est derrière, qui est moins apprécié peut-être par les fans, mais que j'avais quand même trouvé, voilà.
Même de plus c'est un cran en dessous.
C'est un cran en dessous, mais ça reste quand même.
Ah oui, c'est ouais. De la très bonne cam, hein. Il n'y a pas de. Et puis c'est deux histoires qui s'attachent aussi sur le côté Batman qui affronte la pègre et pas de super vilains qui sortent de n'importe où. Voilà, c'est vraiment Batman qui au très fond de Gotham vraiment s'attarde à éradiquer la vermine.
C'est toute la richesse de Batman, le côté pas nécessairement ancré dans un truc de super-héros complètement barré, tu vois. C'est-à-dire que pour le côté super-héros, tu trouveras Batman très bien dans les Justice League par exemple. Tandis que si tu prends de manière plus individuelle, tu as tout ce qui tourne autour de Gotham, toute cette pègre, etc., qui est quand même très particulière et qui ne ressemble à aucune autre dans l'industrie comics, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que Long Halloween est super bien, c'est parce que Double Face fait un très bon ennemi dans ce paradigme là, quoi.
Ouais, ouais, et puis ouais, je voir Batman un peu dans le côté street, ça m'a fait du bien de me replonger dans Long Halloween pendant que Snyder faisait la fin de son run. Je l'ai relu à ce moment là.
Le trou noir, c'était génial.
Oui, c'était super. C'était super. qui voulez-vous citer d'autre dans les scénaristes? On reste dans les scénaristes. Hein.
Ouais, ok. Moi, si j'en citerai trois autres, je vais commencer par un, je te laisserai la parole après, Léo. D'abord, moi, Geoff Johns, pour son.
Terre 2,
ce qu'il
Terre
a apporté
1.
Sur Terre 1, ouais. Terre 1. Voilà, il réinvente. Il repense, on va dire, le personnage de Batman en apportant une modification légère. Il modernise un petit peu les origin story, alors qu'on connaît tous, évidemment. Donc là, l'objectif, c'est pas de refaire la chauve-souris dans la grotte avec la fenêtre brisée, les deux parents dans Crime Alley. Ça y est, mais c'est tourné d'une manière à ce que le lecteur soit surpris. Et ça marche. Il y a deux tomes en VF. Le troisième, apparemment, est plutôt en hiatus. Apparemment, a été écrit, est en train d'être dessiné. Bon, c'est pas trop. Pareil, c'est dessiné par Gary Frank, donc c'est ouais. Gage de qualité. Et même les vilains sont complètement réinventés, notamment le pingouin, Killer Croc, on a Enigma. Donc voilà, je prends la mythologie, je la retravaille, je livre quelque chose de plus moderne, plus dynamique, qui n'a pas forcément besoin de 75 ans de continuité pour être saisi.
Oui, c'est ça.
C'est pas vraiment le cas, mais c'est vraiment une super lecture assez, assez fraîche, en fait.
Pour faire un autre point Marvel, c'est Ultimate Batman, 10 ans après Ultimate Marvel. Voilà.
Ouais.
Sauf que
c'est
en graphic novel et pas en série régulière. Et voilà.
C'est ça, c'est exactement ça.
Léo,
ouais, Léo.
Moi, c'était parce que c'est une lecture récente et que j'ai beaucoup aimé et que je trouve que là encore dans l'opposition de style, c'est quand même super bien. C'est Paul Jenkins pour Batman Jekyll and Hyde, où tu avais là encore, bon, c'est aussi parce que j'adore Double Face, mais aussi parce que tout le but de Double Face dedans, c'est quand même de montrer le côté sombre de Batman et surtout de le forcer à péter un câble façon schizophrénique, comme lui. Et donc là, voilà, dans le côté un peu, dans le côté même genre d'émotion que m'avait proposé la Cour des Hiboux, et notamment tout le côté ultra sombre de Batman, là encore, il y a un truc, genre, je crois que c'est, si je me souviens, c'est exclusivement noir et blanc, et du coup, c'est très plongé dans une psyché, quoi. Et pour moi, ça représentait même très bien ce qu'était un peu Batman, surtout l'opposition de maladie, entre guillemets, l'opposition pathologique, voilà, entre les deux ennemis était assez fascinante. Tout ce qu'on apprenait sur Double Face, tout ce que Batman, peut porter en lui comme haine et ténèbres, etc. Est vraiment dingue, quoi.
Allez, rapidement, pour quelques derniers, éventuellement, Léo.
Allez, donc un, le Peter Tomasi en duo avec Patrick Gleason sur les New 52, Batman et Robin, meilleure série Batman des New 52, je pense, avec mise au centre de la relation Batman-Damian, où ils exploitent très clairement la relation familiale. Il faut savoir, je crois que c'est Peter Tomasi, ou un des deux, qui est parent en fait, qui est père à ce moment-là, donc ça se sent vraiment que l'auteur vit en même temps ces moments, voilà, de confidence, d'affrontement, de prise de tête. Donc c'est vraiment super agréable à lire, avec un numéro 18, j'y reviendrai plus tard,
Ouais.
très dur, et une fin complètement folle. Donc il y a tout, vraiment il y a tout ce que vous aimez lire dans Batman, sur Batman, dans cet arc. Et pour moi, deuxième, enfin autre auteur, Lee Bermejo, ou Bermero, je sais pas,
Bermero, je t'en sais.
Bermero. Deux titres Batman, enfin Joker, donc c'est pas forcément un titre Batman, mais c'est un titre dans le Batverse, avec un Batman sous-jacent, comme menace un peu dans l'ombre, c'est logique, donc ça marche très bien. Et Batman Noël, où il réinvente le conte du Noël
Scrooge.
de Scrooge, ouais, réadapté à Gotham, avec un, voilà, un Batman qui se laisse aller, qui est très très menaçant, très physique, et qui va devoir se remettre en question et repartir sur le bon chemin, notamment en fin de tome. Et c'est, bon, là aussi, il sera dans les artistes emblématiques, mais voilà, c'est illustré à la perfection. Donc, Libermeyo, pour moi.
Ouais, c'est clair. Et ben voilà, on a fait un tour. Voilà, on peut pas tous les citer évidemment. Hein. On aurait pu citer aussi Neal Adams, Ed Brubaker par exemple, mais voilà, on va s'arrêter là
Il y en a
pour les grands
beaucoup, hein.
scénaristes. On a déjà un tour d'horizon. On va passer maintenant à la partie graphique, la partie visuelle, avec des artistes là aussi emblématiques qui, pour certains, se sont même révélés grâce à leur passage sur Batman. Lequel aurez-vous envie de citer en premier? Peut-être le premier sur notre liste.
Ouais, ok.
David Finch.
David Finch. C'est vrai que moi personnellement, j'ai, à part dans le Batman, là, du Batman Rebirth, je l'ai jamais vu en fait sur Batman. Enfin, j'ai pas, ça me revient pas.
Et ben à la période Morrison.
Eh oui, c'est exact, effectivement.
Rappelle-toi cette superbe couverture sur la
Oui,
gargouille.
sur la gargouille avec les fumées derrière. Ouais. Oui, c'est oui, David Finch. Bah, c'est un style très très années 90, hein. Beaucoup de muscles, beaucoup d'ombre, un ancrage bien marqué, mais c'est un peu la quintessence du mainstream, hein. Donc ça marche très bien sur un personnage comme Batman. Voilà, c'est un auteur qui est là aussi beaucoup critiqué, mais moi je trouve que globalement ça marche à chaque fois, même si des fois ça. Bah aussi, attends, David Finch, ça me revient là, il a fait Legend of the Dark Knight, il me semble.
Oui, il me semble aussi. Mais ouais,
Donc,
David
ouais, un
Finch,
artiste vraiment cap.
moi j'aime bien ses jeux effectivement sur les lumières, sur tout ce qui est un peu vaporeux, etc., pour camoufler un peu le Batman, etc. Voilà, il a quand même ça d'intéressant, même si, bon, anatomiquement au niveau des muscles, bon, effectivement.
Ouais, c'est un peu étrange. Bah, du coup, on peut, en partant de
Bon, moi,
David
ce sera pas le
Finch,
pire.
on peut évoquer tout de suite son rejeton qui maintenant, je pense, l'a dépassé.
L'élève qui dépasse le maître, et bah, c'est clair,
Ouais,
oui.
Jason Fabok, qui. Assez, bah, son premier travail, c'est sur Detective Comics, dans les New 52, avec Empereur Pingouin, et il y a eu un arc à Gotham, avec une histoire avec l'épouvantail, je me souviens plus du nom.
Ah, je ne sais plus, mais effectivement, moi, je me rappelle bien d'Empereur.
Godtopia.
Ah
Godtopia.
oui.
C'était ça le début.
Je me rappelle
Voilà.
de ce truc dégueulasse, enfin dégueulasse, l'histoire.
Ouais, c'était pas terrible. C'était du John Layman, il me semble. Bon, de toute façon. Mais ouais, Jason Fabok, c'est pareil. C'est, pour moi, c'est l'un des, dans le top 5 actuellement, des artistes mainstream. Attention, c'est très très mainstream. Voilà, les proportions sont incroyables. Les personnages sont classe et iconiques. Enfin, c'est fou, vraiment fou. La puissance qu'il arrive à donner aux personnages les plus simples. Enfin, même son Jim Gordon est incroyable. Voilà, les personnages sont musculeux, sont des visages carrés. Même les ces nanas sont évidemment sexualisées, mais on n'est pas sur du Jim Lee, par exemple. Voilà, c'est vraiment un artiste que j'adore, qui va se révéler et exploser sur la saga Darkseid War, avec là aussi Batman qui a un rôle plus ou moins central. Mais ouais, Jason Fabok, c'est vraiment l'un des meilleurs. Il a aussi fait le Batman Eternal 1, il me semble.
Oui,
Il a
il a
fait quelques
participé à Batman Eternal, oui, notamment sur les débuts, effectivement.
Les numéros clés, c'était Jason
C'est
Fabok.
ça, oui, les numéros de John Fabok, c'était souvent les plus importants.
Et là, c'est vrai qu'il a un peu disparu, c'est dommage parce qu'il a un style qui colle parfaitement au Batman. Donc, c'est un peu décevant de ne pas le voir. Mais ouais, vraiment, moi, c'est un artiste qui m'a vraiment qui m'a accompagné et que je prends, même si l'histoire est un peu décevante, c'est dès qu'il y a cet artiste, je me dis, bon, c'est pas grave, au moins je me prends une putain de claque visuelle.
Au pire, c'est un artbook,
Ça,
quoi.
ouais, c'est ça. Et ça
Un
marche à
coup.
chaque fois, quoi.
Oui. Ouais, Gotopia. Tu m'as rappelé un très très mauvais souvenir. qui avait été lancé dans ce numéro Detective Comics numéro 27 des Multitudes.
Ouais. Bah, en fait, le début commençait très bien. Enfin, moi, ça m'avait bien plu. Et la fin, mais mon dieu, oh, c'était nul.
Bah, ouais. C'était bien John Lehman, hein, effectivement.
Ouais, c'était John Lehman.
Et oui, ce fameux numéro Detective 27 avec Gotopia dedans. Oui, qui commençait plutôt bien, effectivement, mais bon.
Avec cette vision idéale
de Gotham, Gotham, ouais.
C'était original, on va dire.
Et puis, un autre, pour continuer, Greg Capullo, quand même.
Ouais. Parce que, évidemment.
Parce que la cour des hiboux, parce que moi, je suis encore traumatisé par l'espèce de, enfin, pas l'espèce, la planche où, où t'as le hibou qui arrive derrière Batman et tu vois Batman qui a une espèce de serre de hibou,
ouais,
de truc et tout. Enfin, je suis encore traumatisé. Pour moi, c'est de l'art, tu vois, genre.
C'est une cover, ça.
Ah bah carrément, ouais, ça c'est ça pourrait faire un poster, tu vois, limite, même si ça fait passer
la couleur du premier numéro des New 52, effectivement.
Voilà, et puis c'est voilà pour tout ce que ça représente, pour tout ce que ça, voilà, ça c'est la quintessence de tout ce que l'album a pu dire, tu vois, à ce niveau-là. Donc
ouais. Greg Cloner Capullo.
Ouais, Greg Capullo. Après, on pourrait partir sur du Jim Lee. Qui est
pour reculer plus progressivement dans le temps, effectivement, Jim Lee.
Jim Lee qui a sublimé le personnage, pareil, dans un style très musclé, très volumineux, et du coup vachement sexualisé, que ce soit pour les nanas ou pour les mecs, hein, de toute manière, dans Batman Hush.
Qui a une formidable édition noire et blanche chez Urban.
Ouais, ouais, c'est,
ah
c'est
oui.
Somptueux.
Oh oui. Oh oui.
Somptueux.
Oui. Et d'ailleurs, il existe en VO aussi l'édition en noir et blanc et elle est même crayonnée. Il y a aussi la version unwrapped, c'est-à-dire sans les ancrages, qui n'est pas dégueulasse non plus.
Ouais, ça.
Ah ouais, Jimmy, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. D'ailleurs, c'est celui qui pourrait me faire lire la prochaine Suicide Squad pour dériver un peu.
Oui, enfin, j'irai pas jusque-là. On va se détendre. Le point squad est arrivé aussi.
C'est fait.
Dustin Nguyen, pour parler de quelque chose d'un peu différent.
Ouais.
Parce que Dustin Nguyen, il a quand même cette particularité d'avoir fait deux choses très différentes sur Batman. Il a travaillé avec Paul Dini sur certains numéros de Detective Comics, qui étaient du Paul du Nguyen, peint, etc., très Batman, etc. Et Little Gotham, Lil Gotham plutôt, qui est un style, qui est quelque chose de complètement cartoony, très très jeune public, sous ses apparences en tout cas, parce qu'il y a quand même une espèce de double lecture dans Lil Gotham qui est assez intéressante. Dustin Nguyen, il s'est quand même frotté, c'est un peu le Scotty Young de chez DC, quoi. Il est capable de faire des choses hyper, à la fois hyper sérieuses, hein, et de partir dans une espèce de délire à la Lil Gotham.
Bah, si je peux juste me permettre une précision, il me semble que Dustin Nguyen sur la période Paul Dini, les intérieurs en fait c'est pas peint, c'est colorisé.
C'est peut-être, effectivement, c'est sur les couvertures effectivement.
Oui, les couvertures sont dans le style de Descender.
Oui.
Donc voilà, c'est de la peinture, c'est splendide. Vraiment, les covers de Dustin Nguyen sur le Detective Comics, c'est.
Oui, c'est presque ce qui me marque le plus au final.
Ouais, ouais, ça fait des fonds d'écran de smartphone à coup sûr. Hein. C'est de l'art, vraiment. C'est ce que j'appelle de l'art. Après, l'intérieur, j'étais un peu plus déçu.
Effectivement, maintenant que tu me dis qu'effectivement, c'est pas peint, les intérieurs, effectivement, t'as raison. Et du coup, j'identifie moins Nguyen.
Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, ça reste toujours très beau. Il y a pas de problème. Mais les covers de Dustin Nguyen sur Batman, c'est.
Et c'est qui n'a pas lu Lil Gotham doit essayer parce que c'est quelque chose de complètement barré, complètement à part. Et il y a quand même.
Tout est dans le titre.
C'est un des rares trucs qui me fait rire dans les comics en général et même sur Batman. Enfin voilà, il a quand même su notamment une espèce de défilé de dindes pour Thanksgiving avec le pingouin à la tête qui veut libérer les dindes. j'ai beaucoup ri là-dessus et puis il y en a pas mal dans l'équipe à l'époque où on en avait parlé qui n'avaient pas aimé. J'avais presque été le seul à le défendre. Je trouve ça très très drôle.
Ouais. Il faut accepter le second degré, quoi. Enfin,
ouais, c'est ça.
Parce que sur Batman, c'est difficile de faire rire, hein, a priori.
Et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi.
Voilà.
Il y en a beaucoup qui ont réussi. Qui d'autre pourrait-on citer? Bah, on en a parlé tout à l'heure, Pat Gleason.
Ouais. Ah, oui.
Hein, pour son Batman et Robin, évidemment. Voilà, on va pas remettre une couche, mais c'est quelqu'un qui a signé un des plus grands numéros de l'histoire de Batman et Robin, avec dans le temps Batman et Robin. Numéro incroyable, oui, sans incroyable. Parole, effectivement. Alors oui, il y a le séquençage, effectivement, qui vient aussi de ce travail Peter Tomasi, mais si ça n'avait pas été Patrick Gleason qui avait dessiné ce numéro-là, voilà, la plupart des gens qui ont versé leurs larmes à la fin, dont je fais partie,
aussi,
ne l'auraient peut-être pas versé.
Ouais, c'est un style, c'est assez particulier, c'est très exagéré. Il y a, les yeux sont très gros, par exemple, mais les expressions sont très parlantes. Donc, ça colle vraiment bien avec le côté émotif que peut avoir la série de
Et
Tomasi.
effectivement, sur les visages avec les yeux prononcés, les yeux pleins d'expression, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans Rebirth sur son Superman et notamment sur son Jonathan. Il y a des planches de Jonathan Kent qui sont somptueuses. Enfin, au niveau de l'émotion qu'il y a dans les regards quand il regarde son père, c'est incroyable. C'est vrai qu'il a quelque chose avec les yeux, Patrick Gleason, que peu arrive à faire.
Après, on peut reciter un autre, il y a quelques décennies maintenant, qui a fait la navette Marvel DC, bah, c'est David Mazzucchelli, qui a notamment
Erwan.
épaulé Frank Miller sur Year One, ouais, dans un style très simple. Ça, c'est un peu comme du Hara. Ça paraît pas compliqué, mais quand on y prête vraiment attention, c'est toujours travaillé, c'est toujours très, très bien proportionné, c'est bien cadré. Donc, ça paraît très fluide quand on lit. Il n'y a pas de difficulté à suivre les personnages, donc c'est un artiste que j'aime bien, qui a du coup retravaillé ensuite sur Daredevil, il me semble.
Avec
Donc
Miller,
avec Miller,
encore une
toujours
fois.
avec Miller, donc voilà, les deux héros
Un sacré
qui.
duo que les deux, qui
Donc
signent à la
bon,
fois sur
je le vois que
Batman et
sur
sur
Year One.
Daredevil. Oui, sur Year One.
Je le vois que sur Year One, moi, je vois pas
Là,
sur
comme
autre.
ça, oui. En même temps, il n'y a
Et
pas
ouais,
de point ailleurs.
de toute manière, c'est un. Ben voilà, on va pas revenir dessus, mais c'est un classique à lire sur le personnage de Batman. Donc
Ah oui,
voilà, l'équipe artistique est au top.
bien sûr. Liber Mero, on en a parlé un
Ouais,
peu,
Liber
on
Mero.
en a parlé donc du côté des scénaristes, mais effectivement, il faut quand même le citer du côté des artistes parce
Ah,
que
c'est incroyable.
voilà, son Batman Noël,
Ah, j'adore.
cette espèce de planche avec Batman et Robin
Ouais.
qui te foncent sur la gueule là quasiment, et un Batman et Robin, enfin sur cette planche, ce qui marque, c'est le Batman et le Robin à côté qui est hyper souriant, hyper, enfin, qui dégage une espèce de lumière à côté de Batman, c'est assez incroyable.
Ah ouais, il y a une autre page plutôt en fin de tome. Je veux pas trop révéler l'intrigue, ce serait idiot. Mais à un moment, il y a le Joker qui traîne Batman sur une double page incroyable. Enfin,
C'est
vraiment,
vrai,
c'est.
c'est vrai.
Je me souviens m'être arrêté, vraiment arrêté à la lecture sur cette page qui vraiment claque, enfin, te claque dans la rétine, quoi. Donc, un super artiste.
D'autres artistes, oh, je pense que un de tes chouchous, Jock.
Ouais, Jock. Ouais, Jock. J'adore ce dessinateur puisqu'il y a c'est très difficilement, c'est très difficile à décrire le style qu'il a. C'est un peu numérique, c'est crayonné. Les visages sont pas forcément bien proportionnés, mais le tout donne quelque chose d'assez malsain, de très noir. Il a officié donc sur la saga Black Mirror, donc de Scott Snyder, et un numéro. Du coup, on en a parlé aussi dans l'émission 266, le numéro 44. Et ouais, c'est un artiste qui convient très bien sur Batman, puisqu'il a ce côté très sombre, très organique, qui marche bien. Donc c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui a, je pense, participé au renom de la saga Sombre Miroir.
Sombre reflet et Dark
Sombre
Mirror.
Reflet. Sombre Reflet, pardon. Voilà, c'est quelque chose, moi, qui m'avait éplu de par le scénario et vraiment attiré par le côté graphique, qui est pas forcément très reader friendly au départ, mais qui marche super bien sur Batman en tout cas.
Alors, il y en a un qui a passé plus de 20 ans sur Batman, qui a commencé dans les années 70, qui a traversé les années 70, puis les années 80 avec lui, puis les années 90, c'est Jim Aparo.
Voilà, pour le coup, je connais pas trop, j'ai très peu lu, donc si
Moi non plus.
tu. Donc Jim Aparo, bah oui, enfin pour moi c'est effectivement le dessinateur emblématique de Batman sur ces décennies-là parce que il a notamment bon c'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux mais Death in the Family, voilà.
Après, c'est celui qui a aussi instauré ce costume bleu là, le costume emblématique de Batman, donc effectivement.
Énormément de numéros de Batman, énormément de numéros de Detective Comics. Il y a eu aussi il est passé un peu sur Legends of the Dark Knight, sur Shadow of the Bat aussi. Il a fait quelques numéros. Qu'est-ce que de mémoire, GCPD, il me semble que c'était lui aussi. Voilà, c'est un grand dessinateur qui a deux volumes, Batman la légende chez Urban. De gros volumes, voilà, comme on a Flash la légende par Carmine Infantino, bon, on a Batman la légende avec Jim Aparo. C'est à
Ah oui.
découvrir. C'est à découvrir. Alors, c'est effectivement, oui, c'est le costume bleu, c'est des couleurs assez vives, notamment oui, sur Death in the Family. Moi, ces couleurs qui m'avaient un peu dérangé, du coup, qui contrastaient un peu trop avec l'histoire et qui peuvent en faire sortir. Et, enfin, en tout cas, enlever quelques émotions de l'histoire. Mais voilà, c'est un style qui colle à l'époque 70-80.
Ouais.
Voilà, c'est un des grands dessinateurs. On ne pouvait pas ne pas citer Jim Aparo de toute façon.
Bah avec Death in the Family, ben il est associé quand même à un des gros titres de Batman. Donc, oui. Carrément.
On va passer rapidement sur Tim Sale parce qu'on a parlé de Jeff Loeb et du binôme qu'ils ont fait, notamment sur Long Halloween.
Oui, donc, chose à dire de plus.
Donc voilà, Paul Pope aussi a fait
Batman Year 100.
Ouais, c'est ça.
Là aussi, c'est très particulier. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut vraiment lire pour pouvoir observer. Enfin, c'est un peu idiot, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire à part parce que c'est complètement surréaliste comme histoire. C'est assez génial à lire.
Mm-hmm. Ouvrir un chouïa, moi je dirais Jay Lee pour les mêmes raisons que pour Batman Jekyll and Hyde. Mm-hmm. Tout à l'heure, voilà, elle participe clairement de l'ambiance de l'histoire et tout ça, enfin, ça m'a rendu la lecture fabuleuse. Voilà,
d'accord.
Ce que j'ai dit tout à l'heure.
Moi, je ferai un dernier mot sur le Batman Dracula de Dude Monk, qui est quelque chose de voilà, ça plaît ou pas.
C'est un ovni clairement. Enfin,
c'est un dessin vraiment particulier. Même l'histoire, hein, le récit en lui-même est assez particulier. On a un Batman qui se transforme au fur et à mesure des trois sagas. Il me semble que c'est trois sagas.
Je ne me rappelle pas du tout de ce truc-là.
Il se transforme en vampire et du coup l'apparence et son physique va se métamorphoser au fur et à mesure et c'est quelque chose qui dénote vraiment de toute la production. On a quelque chose d'horrifique par moment, vraiment on bascule sur l'horreur et le fantastique, donc c'est un peu vieillot, mais c'est à lire de par la découverte que ça peut procurer, donc un style là aussi assez particulier.
Et pour conclure sur les artistes, du coup vous me faites penser à Monsieur Mike Mignola qui est aussi passé sur Batman et qui a quand même fait quelque chose de plutôt sympa. Ça vient de sortir en VF il y a quelques mois, je crois. Donc, okay. La Malédiction, ça s'appelle.
Ouais, je vois le truc.
Quand on a un artiste comme Mignola qui passe sur un personnage, on peut pas le mentionner.
Oui.
Bon, allez, voilà, on va quitter un petit peu les pages des comics pour passer aux adaptations plus ou moins joyeuses, hein, sur les personnages. comment le dire autrement, voilà. Voilà, pas forcément, on va pas s'attarder sur tout, on va citer quelques trucs, passer un peu rapidement. Je sais même pas par quoi commencer. Nolan, allez.
Allez.
Ah oui.
Parce que je pense que c'est le chien qui va mettre peut-être tout le monde d'accord en disant que c'est une des meilleures versions adaptées de Batman.
Ah bah clairement, enfin pour moi il a tout compris, tu vois. Enfin, et limite je vois très peu de réalisateurs qui comme lui aurait pu se mettre se mettre au boulot sur un personnage pareil, parce que Nolan il a un art du scénario associé à son frère, bien sûr, hein, son frère pour ses séries télévisées qui sont aussi extrêmement léchées en termes scénaristiques. Nolan c'est quelqu'un qui a un vrai attrait au niveau des couleurs, de l'ambiance, de l'environnement dans lequel il fait évoluer ses personnages, donc un duo pareil ça pouvait vraiment que marcher, et surtout il a entre guillemets humanisé le truc, c'est-à-dire qu'il l'a un peu sorti du côté comics et il a un peu plus instillé dans un environnement qui est assez terrifiant, c'est-à-dire toute cette vision un peu apocalyptique qu'on voit d'une part avec le Joker qui met la ville à feu et à sang, et ensuite avec Bane qui essaie de prendre le contrôle, de vouloir faire régner un nouvel ordre, etc. Sans compter Begins, c'est aussi un peu sur toute la jeunesse de tout ça, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il s'est réapproprié le mythe comme très peu. Il l'a extrêmement bien scénarisé. Enfin, pour moi, voilà. Bon, et puis il y a des trucs d'histoire, etc., qui sont assez dingues. Et surtout les personnages aussi, la manière dont il a fait jouer ses acteurs. Moi, je suis un grand fan de Christian Bale et je le répéterai tout à l'heure au niveau des acteurs, mais au niveau des Batman que je préfère. Mais je trouve que Bale a un côté un peu névrotique, un peu marginal, un peu Asperger. Qu'il a toujours très bien su cultiver, un truc un peu psycho qu'il a su cultiver au long de sa carrière et qu'il sait moduler, et du coup ça en fait un Batman qui est aussi bon en tant que Bruce Wayne qu'en tant que chauve-souris, quoi. Et ça voilà. Et puis après bien sûr il y a le Joker, il y a Bane, etc. Enfin, Nolan est un très bon directeur d'acteurs et
Talia al Ghul, bordel, quelle prestation.
Et Talia al Ghul, voilà. Bon, alors elle c'est un peu genre l'espèce d'erreur de parcours, mais enfin bon, qui n'en fait pas, mais en général c'est très bien joué chez Nolan, et c'est des personnages qui expriment quelque chose, des personnages qui portent quelque chose et qui portent un discours. Voilà, je ne vais pas refaire tout ce qui a déjà été dit sur The Dark Knight, mais mais voilà, tout ce qu'a fait le Joker, son double face, Bane, voilà. Tout a déjà été dit hein, sur la manière
dont on consacrera peut-être une émission un jour.
Pour nuancer un peu, j'ai des choses qui me gênent un peu. C'est un, le costume. J'ai beaucoup de mal avec le costume choisi dans la saga.
Ouais, même les véhicules, hein, je n'étais pas fan moi donc.
Ouais, cette espèce de tank, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et moi, ce qui me gêne, c'est la mise en scène du côté de tout le background physique du personnage qui est inexistant en fait. Je suis d'accord qu'on a un Batman qui est globalement très bien écrit, réfléchi, qui pose le pour et le contre, mais l'impact physique du personnage, malgré tout ce qu'on dit, existe et doit exister, bah, elle est assez nulle dans cette trilogie, alors que c'est beaucoup plus présent, je pense, dans la prochaine adaptation que nous allons évoquer. Mais voilà, c'est un Batman mou, qui est finalement pas très bien mis en scène, je trouve, c'est personnel. Maintenant, à côté de ça, voilà, il y a tout ce qu'a dit Léo, mais ces deux aspects-là me gênent un peu plus, on va dire.
Oui, non, de toute façon, c'est clair. Moi, j'ai eu du mal.
Ah non, mais voilà. Mais...
Le troisième, j'arrive pas.
Le troisième est un peu moins. Il souffre d'avoir un peu moins de poids, et surtout, il souffre de passer derrière le Joker, quoi, et toute l'émotion après la mort d'Heath Ledger, etc. Enfin. Il a ce truc là, c'est-à-dire qu'il est, il est très solide, il est quand même, il y a beaucoup de choses, mais après, il, voilà, c'est-à-dire que t'as l'impression de revoir une tentative de revenir un peu à ce niveau-là, un peu de refaire encore une histoire iconique, et ça marche un peu moins bien et tout. Et pourtant, Tom Hardy est quand même super bien en Bane.
Ah oui, oui, ça par contre.
Et voilà, il y a beaucoup de choses.
Aussi,
mais et il y a Joseph Gordon-Levitt.
Le combat de fin Batman-Bane, c'est mou quoi. Enfin, c'est...
Ouais, non. Je sais pas, moi je. Oui, mais je suis d'accord, il fait moins d'effet. Sur le costume aussi, bon, bah. Enfin, moi, c'est pas un truc qui me dérange, je t'avoue. Enfin, c'est pas la première chose auquel je fais attention. Ouais. Tu vois, mais je dois bien l'avouer. Mais après, bon, je peux comprendre. Et après, ce que je disais sur l'acteur, en effet, bah, le truc, c'est que Christian Bale, à la base, c'est pas vraiment le genre de mec qui était, tu vois, un peu baraqué et tout pour jouer Batman. Il a gagné énormément de muscles et de poids et tout. Enfin, c'est un acteur qui est très. Qui est très investi, voilà, il est très polymorphe, il est capable de, je crois qu'il a gagné au moins 20 kilos d'ailleurs pour ce rôle, parce que c'est un acteur qui sait très bien jouer là-dessus. Après, bon, il l'a gommé au maximum, mais je peux comprendre qui est ça, quoi. Ça se voit peut-être un peu plus d'ailleurs dans The Dark Knight Rises et peut-être plus Begins aussi, ce genre de truc-là, mais bon, moi, ça passe bien, tu vois, à l'écran, ça se.
Alors que. Le Batman de l'ami Snyder.
Ah, l'ami, oui, si tu veux.
Et je vais le défendre.
C'est un énorme gâchis.
Moi, je trouve que c'est le Batman comics par excellence. Alors après, je parle pas de l'écriture. Je parle de la manière de l'incarner et l'impact physique qu'impose Ben Affleck et du coup Batman. Moi, la scène de baston qui fait très Arkham, du coup Arkham jeu vidéo à la fin. Bah, à chaque fois que je me la repasse, elle me ravit, quoi. Je trouve que c'est là pour le coup, Snyder a tout compris de la chorégraphie, de la manière de faire bouger Batman dans son environnement. Cette scène, enfin après le film a ses défauts, on va pas
refaire son procès. Hein.
Mais je trouve que cette scène là, elle est très réussie.
Voilà, on se centre juste sur Batman, donc on va pas faire tout
ça,
le procès du film évidemment.
Ça, je suis d'accord. Tu vois, c'est quelque chose qui, c'est pour ça que j'étais déçu, moi, parce que, il y a à peu près des bons ingrédients dans BVS pour pouvoir faire un truc qui soit solide au niveau de la conception du personnage en tant que physique, etc. Ça, c'est sûr. Et pourtant, Dieu sait s'il y a eu toute la Ben Affleck Gate avant le film, qui était ridicule, mais après, oui, sur le design du personnage, le design du costume, la Batmobile, etc.
Il est parfait, quoi.
Il y a ce qu'il faut. Franchement, ça, je suis d'accord. C'est pour l'écriture, c'est pour c'est le
terme de prestance et tout ça. Il incarne plutôt bien ça. J'y avais reconnu.
Oui, voilà. Je préfère Ben Affleck en Batman que Christian Bale, quoi.
À la rigueur, pour l'incarnation aussi, mais bon.
Il a une bouteille, tu vois. Après, moi, je préfère Christian Bale par pur affect personnel, mais je comprends. Vraiment, je comprends, tu vois.
Bon, il y en a un qui mettra tous d'accord, que tout le monde d'accord. De toute façon, c'est Adam West.
Ouais. Évidemment.
Hein, un des meilleurs Batman.
Évidemment.
Ouais.
Voilà.
Donc 1966, hein, le film avec le Bat-Prayer pour repousser les requins,
ça.
L'immense, le cultissime Batouzi, tout ça, voilà.
Là,
les ascensions d'immeubles à l'horizontale.
Le Batmobile, puis surtout vite Batman, vite Robin à la Batmobile. Ouais, allons-y à pied, tout ça. Enfin, le téléphone, il y a tout, quoi. C'est, ouais, c'est la quintessence.
Adam West, un grand Batman qui est revenu il n'y a pas très longtemps dans une version animée qui fait suite.
Et qui a été célébré à l'occasion du 200e épisode de The Big Bang Theory, puisque
oui,
c'est l'anniversaire de Sheldon, et pour lui faire la surprise, ils invitent Adam West à venir fêter ça.
Voilà, donc mon anniversaire est passé, mais je vous donnerai la date, hein, si vous voulez. Et quelque chose, je ne suis pas contre. Cette version, voilà.
Il a 90 ans.
Il faut le voir, il faut le voir, ce monsieur. Voilà, 1966, il a refait parler de lui également il n'y a pas très longtemps, tu l'as dit, dans Big Bang Theory, mais aussi dans cette version animée. Cet univers 66 a été adapté en comics aussi, avec des dessins de merde, comment s'appelle-t-il, je ne connais que lui, Silver Surfer,
Michael Red.
Voilà, qui a fait des trucs assez dingues, voilà, qui est ouais. Un des meilleurs pour retranscrire l'univers 66, je pense. Voilà. Un de mes petits chouchous. Alors je lui reconnais tout ce qui est kitsch, tout ce qui est pas Batman, mais, ou tout ce que vous voudrez, mais c'est un Batman qui me met tellement de bonne humeur, celui-ci.
Ouais.
Le Batman de Monsieur Bruce Timm.
Oui.
Ah bah oui.
Oui, oui.
Qui n'est pas amoison devant l'art qu'on a fait Bruce Timm, mais je parle même pas de graphique, parce qu'il y a quand même tout autre chose, tu vois. C'est genre, c'est un univers à soi seul, la série animée, quoi.
Ouais, moi ce sera ma référence personnellement, parce que voilà, j'ai vraiment grandi avec, donc j'ai un affect très particulier avec cet animé là. Ouais, Bruce Timm, pardon. Oui, c'est vraiment le meilleur
pour l'animation.
Et d'ailleurs, on pourra quand même citer son Justice League tout récent là, avec une version de Batman alternative. Je me souviens plus du nom, ça m'est sorti. La Justice League avec le Superman où c'est le fils de Zod.
Quoi?
Là dans le dessin animé actuel?
Ouais, non. Et c'était un film d'animation. Il y en avait eu trois petits films.
Ah oui, j'avais adoré ça.
Ah, c'était
Justice. Mais j'ai pas vu ça.
C'est Gods and Monsters.
C'est ça, Justice League Gods and Monsters.
Ah, tu sais, avec Arnaud, on était que les deux à avoir vu ça à l'époque.
C'était incroyable ça.
Avec les comics qui étaient liés au truc, c'était un projet vraiment transmédia avec les comics, l'animé. Enfin, c'était très très bien.
Et du coup, là, on avait un Batman qui a été un mix du coup de Batman et de Man-Bat.
Oui.
Ouais, c'était très particulier, mais ça a marché à merveille.
Moi, j'avais beaucoup aimé cet univers, oui. Cet univers
avec Michael C. Hall pour doubler Batman, aka Dexter.
Exact.
Et Jason Isaacs pour doubler Lex Luthor, aka Lucius Malfoy. C'est cool, ça, faut que je regarde ça.
Par contre, effectivement, le film est sympa en soi, mais en mise en contexte par les trois mini-séries Batman et Wonder Woman, très très sympa.
Très sympa. Ouais, bah, après Bruce Timm, c'est aussi Killing Joke.
Oui. Voilà.
Celle-là est animée des années
90. Ouais, c'est l'erreur de parcours. C'est, bah, on en a tous.
Ouais. Ah,
personne n'est parfait, hein, même un dieu.
Même dieu fait des erreurs, effectivement. Que citer dans les adaptations, on va peut-être parler d'un petit peu, faire une petite pause jeu vidéo, Anthony.
Ouais, bah du coup la série Batman Arkham, donc trois jeux par Rocksteady, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Je vais pas m'étendre parce que ça va faire partie de mon top, j'y reviendrai à ce moment-là, avec un épisode pas spin-off mais de pause par Warner Bros Studio, il me semble. Arkham Origins, que j'ai pas fait d'ailleurs, c'est le seul que j'ai pas fait. On pourra aussi parler de Injustice.
Ah oui.
Donc qui est le style, le jeu de combat de Netherin, donc moi, Mortal Kombat.
Avec les comics de Tom Taylor, qui n'est pas qui divise, mais qui ont au moins l'intérêt d'exister et que je n'ai pas trouvé.
Ouais.
Au moins sur le début, en tout cas.
Oui, le début était très bien. Après, c'était bien moins bon. Mais bon. Voilà, donc le jeu, c'était un jeu de baston avec des personnages de DC, avec un choix, avec un roster de personnages assez.
Assez évolué. Et puis surtout, il y a un Injustice 2 qui arrive bientôt, là.
Moi, j'avais trouvé ça un peu étrange. C'est-à-dire, pourquoi Solomon Grundy et pas d'autres? Pourquoi Killer Frost et pas d'autres? Bon.
Oui, oui, il y a des choix, tu vois. Mais c'est sympa, ça offre une diversité. Et puis ça permet de connaître quelques personnages sympathiques. Surtout, il y a beaucoup de costumes
qu'on peut tester
au niveau de tous les personnages. Donc ça, c'est cool.
Et donc oui, le 2 arrive. Et d'ailleurs, ils mettent pas mal l'emphase et l'accent sur des trailers scénarisés. Et ça a l'air, ma foi, assez poussé.
Ah, moi j'attends que ça, hein,
pour un jeu de
franchement.
baston, ils mettent vraiment l'accent et un point clé sur à raconter une histoire, et c'est assez plaisant à suivre cette campagne promotionnelle. Donc
Alors, j'ose espérer que toute l'histoire ne sera pas racontée dans toutes ces vidéos qui sortent.
J'espère aussi.
Oui, c'est ça, c'est pour ça
Qu'ils
que
sont
je
pas en
vais
train juste de nous sortir presque toutes les cinématiques. Et...
Oui, c'est ça.
Ça serait dommage, mais ça peut être une crainte. Et puis dans les jeux récents, on a
Ouais, il y
le
a aussi
Batman de Telltale,
Oui.
qui est, ma foi, sympa.
Aussi.
Enfin, bon, j'ai pas, voilà, j'ai fait deux épisodes, hein, je suis loin d'avoir terminé.
Qui est un peu le long Halloween, enfin un
Les
peu
épisodes sont assez courts, c'est ce qu'on peut regretter, comme pas mal de jeux Telltale. Mais c'est quand même sympa, tout comme les jeux Lego Batman qui sont hyper cool. Enfin, moi, je suis fan de
Ouais.
l'univers Lego, de toute façon. Voilà.
Après, Telltale niveau gameplay, plaisir de jeu, c'est pas très poussé, quoi.
Ah bah non, bah non, non,
Non, c'est le problème de Telltale. Moi, c'est ce qui fait que j'aime pas ça, personnellement.
Moi
C'est
aussi, j'ai
pas
un
très
peu du mal.
joli.
Oui, non, mais c'est
Et
sûr.
puis, il y a ceux que le joueur du grenier, notamment, sur lequel il s'est attaqué, c'est-à-dire Batman et
Oui.
Robin et Batman Forever, qui sont deux espèces de quiches assez monumentales en termes de Batmanisation vidéoludique,
Bon, c'est lié au film, hein.
mais c'est lié au film, c'est vrai.
Je peux dire.
Pourquoi je me pose la question? Oui, bah oui, c'est vrai. Moi, par ailleurs, d'ailleurs, Anthony, au niveau des Arkham, j'ai fait tous les quatre. On en discutera quand
Ça
on
marche.
arrivera à tes top. Mais il y en a que j'ai plus ou moins aimé que d'autres. Après, je trouve que c'est quand même une certaine référence. En tout cas,
Ah oui,
la série
c'est de la
en a
super
fait.
cam, hein.
Ça, c'est quand même. Ouais, voilà.
Donc, ouais, non, du côté des jeux vidéo, on a fait un petit tour
Et
assez
d'ailleurs, du
rapide.
côté des films, on n'est pas allé
Ah non, on n'est pas encore.
jusqu'à
Bon, on n'est
Schumacher et
pas
Purple.
arrivé encore, mais il faut aborder le problème des bas de téton. Hein. De toute façon, c'est
Ah, bah oui.
le problème George Clooney, l'épine dans le pied de
Ah.
Batman.
Il l'a dit, hein. Il l'a dit qu'il avait tué Batman, et c'est peu de le dire, hein, parce
Oui,
que
mais
putain.
Batman a deux pieds, il a deux épines, George Clooney et David Mazouz.
Mais enfin, David Mazouz, c'est pas Batman, c'est pas.
Eh ben, ça
C'est
reste
pas
un fail quand même.
Oui, mais tu peux pas le mettre sur le même plan, c'est pas
D'ailleurs,
exactement.
petite
Voilà quoi,
rumeur
tu vois.
pour Gotham qui pourrait faire
Ouais.
un saut dans le temps pour nous amener Batman plus rapidement dans sa saison 4.
On attend que ça.
Merde.
Bah, si ça peut nous débarrasser de
Merde.
Mazouz, oui, effectivement, on attend que ça, oui.
Merde. Bah, je sais pas, je crois avoir. Ouais, je sais plus s'ils veulent garder David Mazouz jusqu'à un certain point en fonction de l'évolution de la série ou en amener un autre, ce qui serait peut-être relativement logique, comme ils l'ont fait avec Poison Ivy, hein, mais c'était lié au scénario. Mais bon, il a 15 piges, David Mazouz, donc ça va être un peu difficile de l'amener jusqu'à l'adulte.
C'est ça, c'est ça. La série tiendra pas autant d'années. Hein.
Là, ce serait bien. Hein.
4 saisons, 5 grand maximum, et ça s'arrêtera. Hein. C'est pas une série qui est faite pour durer. Qu'on en
Non,
pense,
non,
qu'on
non.
l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas fait pour durer 10 ans.
Non, je pense qu'en effet, là, ils sont à saison 3, il leur reste 2 ou 3 saisons peut-être à faire, et voilà, en
Trois
fonction
saisons, t'es
de.
gentil. Hein. 2 max, à mon avis.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, ça dépendra
Oh,
des
une.
audiences, etc.
Ouais,
De
zéro,
la
ça
volonté de la
supporte.
Fox. Bon, mais bon, pour revenir à Schumacher, qui est quand même un problème bien plus grave, voilà, je veux dire, on est tous encore traumatisés par l'intro de Batman Forever et de Batman et Robin, et puis la bat-carte de crédit, et puis.
Mais tout, la batte, n'importe quoi, batte.
Tout,
Enfin, ouais.
bah, tout ce que tu veux, c'est-à-dire que en fait, c'est encore quand même à chaque fois que.
Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger.
Oui, voilà, non, mais la Warner a eu ses moments de craquage, tu vois. Genre, d'ailleurs, c'est la Warner qui produit les films de Nolan, non, et les films de Burton aussi, que je
C'est
sache, je
Warner
crois.
qui produit tout Batman, non?
Voilà, c'est ça. Non, mais au cas où il y avait eu un écart. Donc bon. En fait, ils ont eu une grosse période de craquage, tu vois, c'est par cycle. Genre, ils ont fait Burton, et puis Schumacher, et puis ils sont revenus à Nolan, et puis ils sont passés à Snyder. Genre,
C'est vrai,
du
c'est
coup,
un peu les
c'est un
montagnes
peu les
russes.
montagnes russes. Voilà. Donc bon, Batman et Robin, ça parle de soi-même. Batman Forever, moi, j'ai un affect pour Jim Carrey, donc à la limite, voilà. Mais
Oh.
bon, sinon c'est risible, tu vois. C'est autant en rire, tu vois, à ce niveau-là. Autant ne pas faire un anévrisme, parce que rien n'est sérieux. La Warner voulait faire un truc de divertissement à la base. Sauf qu'ils se sont dit, on va prendre Batman. Ils sont quand même complètement débiles. Et du coup, ils ont fait un truc totalement barré, alors qu'ils sortaient de Burton, tu vois. Le choc était un petit peu trop grand pour les spectateurs.
Ouais. De Schumacher à Burton, il n'y a qu'un pas en
De Burton à
arrière.
Schumacher, plutôt. Ouais, c'est
Burton,
ça,
en
mais
tout
en
cas.
arrière.
Donc, bon, Burton a fait effectivement un Batman qui restera quand même assez marquant. Hein.
Ah oui, parce que Burton, il a ces ténèbres qui sont en lui, tu vois. C'était quand même. le mec vers lequel tu pouvais te tourner pour faire un Batman. Tu vois, c'est un mec qui a un univers graphique de toute façon qu'on connaît. C'est un mec qui a, voilà, qui savait, qui pouvait s'approprier le personnage mieux que quelqu'un d'autre. Tu vois, genre Nolan, il a pas ce rapport au sombre, au noir comme Burton là. Tu vois, il a même si Nolan c'est autre chose. Nolan c'est une espèce d'Asperger un peu particulier. C'est pour ça qu'il a pris Christian Bale. C'est un petit peu le même type. Burton c'est vraiment quelqu'un qui s'identifie au côté solitaire de Bruce Wayne et de Batman. C'est un mec qui fait vraiment même par rapport à Helena Bonham Carter. C'est un mec qui fait vraiment des trucs un peu en solo et c'est très personnel, ça ne tient qu'à lui, et il a apporté des trucs fous, notamment toute cette histoire avec le Joker, l'opposition Michael Keaton, Jack Nicholson, enfin c'est des jalons, Burton, c'est comment ça.
Ouais. Que dire encore sur les adaptations de Batman, on en oublie sans doute, hein. Honte à nous, hein. Bah, toutes les séries animées qui ont fait suite à Batman, la grande série Batman avec, de grosse team, hein. On pense à Batman
avec plus ou moins de fortune, parce que c'est laquelle, celle avec le Joker version Rasta là,
c'est
Batman, je sais plus quoi,
c'est la toute dernière, ça,
c'est pas la relève.
Non,
c'est après, c'est encore. C'est pas The Brave and the Bold. C'est Batman. Bah, c'est pas Batman avec un tiret au milieu ou un truc comme ça.
C'est Batman. C'est The Batman, je pense.
Oui,
hein.
Ouais, c'est... The Batman, oui.
Voilà, c'est ça.
Celle qui
oui,
passe sur ça. France 4 en ce moment.
Exactement. Ben oui, mais le
c'est une revisite, hein, graphique totale, hein, de toute façon. Oui, Joker avec ses dreadlocks.
Bane en rouge.
Ouais. Moi, ça m'a pas dérangé particulièrement. Bon, on sent clairement l'inspiration de la série de Ghost Team de toute façon dans les histoires.
Hein. Ah, bah, clairement. Toutes les autres séries se mettent dans sa filiation. Enfin, clairement, il n'y a pas de. Il a posé quelque chose, tu vois, Bruce Timm, elle existe depuis 25 ans, cette 92, donc voilà. Et on n'a pas parlé des films d'animation, hein. Batman apparaît dans tout un tas de films d'animation,
que ce soit les récents ou les plus anciens.
Batman Beyond, Mask of the Phantasm,
Under the Red Hood.
Oui.
Ouais, pas mal de choses. Hein.
Voilà, pas mal de choses. Alors, on va s'arrêter là. On a posé le cadre de manière très très vaste en parlant ici.
Et encore.
On est loin d'avoir tout abordé. Il y en a dont on n'a pas parlé, mais dont on parlera, j'en suis sûr, dans nos tops. Ça permettra d'être plus complet. Nous allons commencer donc un top 10. Vous en avez 10 aussi ou pas?
Ouais.
Oh, super.
Moi, j'en ai 7, je crois, en tout.
Ah, bon, bah, alors, nous commencerons donc seulement avec Anthony de 19 et 8, et puis tu nous rejoindras à la place 7. Nous allons donc. Anthony va nous donner son 10e. Si l'un de nous l'a mis à une autre position, ce sera l'occasion pour nous de le dire à ce moment-là.
On va
répéter plusieurs fois, évidemment. Voilà. Donc, Anthony, qui as-tu mis en 10e position de ton top 10 des meilleures versions de Batman
ever? Moi, ce sera Batman par Snyder, Scott. Mm-hmm. Scott Snyder. Avec quelques points précis, la cour des hiboux, enfin Black Mirror, la cour des hiboux, et je suis désolé, mais le Bat Chappie, rien que par la connerie et le what the fuck que ça a apporté, bon, ça m'a beaucoup plu. Voilà, Snyder, des ambitions énormes, pas toujours. Bon, allez voir l'émission, je vais pas me. Allez voir l'émission.
66.
Moi, je vais foutre la troisième place, moi, Snyder.
Alors, pour l'ensemble de son œuvre ou...
Parce que la cour des hiboux m'a fait quand même un sale effet, quoi. Donc. Pour ça, tu vois, pour le côté un peu dingue, tu vois, de l'expérience, voilà. En fait, c'est-à-dire que j'ai un podium, vous le verrez, qui est assez éclectique en termes de version où on voit Batman, tout support confondu. Donc, je me suis dit que j'allais faire un top 3 qui mélange les différentes versions, quoi.
Figurez-vous que Scott Snyder est aussi dans mon top 10.
Ah.
Et il est en 4e place.
Quoi?
Parce que j'ai choisi de mettre. On parle des versions de Batman qu'on préfère.
Oui,
et
oui.
La quatrième version, donc on dort en quatrième place, c'est Dick Grayson par Scott Snyder dans Dark Mirror. Voilà, c'est le Batman Dick Grayson de Scott Snyder que je trouve absolument incroyable dans Dark Mirror. C'est surtout pour cette partie-là. On pourrait rajouter la cour des hiboux si on s'intéressait à Scott Snyder, mais la version Grayson dans Dark Mirror, je trouve absolument incroyable. au moins autant que l'œuvre. Scott Snyder est bien dans mon top 10 aussi, donc il est dans le top de tout le monde, et c'est bizarrement celui qui le défend le plus qui l'a mis le plus bas.
C'est vrai.
C'est rigolo, c'est rigolo.
Bah, moi, tu vois, si je devais mettre un dixième, du coup, enfin, parce que j'essaie d'en rajouter trois à l'arrache, je pense que mon dixième, ce serait le Batfleck, pour le coup. Parce que, voilà, pour tout ce qu'on a dit, parce que pour moi, le film est une cagade absolue, mais lui est, lui, voilà, c'est pour me retenir, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, il aurait pu être bien. C'est juste un gros gâchis, ce Batman. Mais
D'accord.
intrinsèquement, il est pas si mauvais.
D'accord. Tu l'as mis ce Batman-là, toi, dans ton top, puisque c'est le dixième de Léo, Anthony?
Moi, je le mettrais dans une case à part, une case mention spéciale, on va
D'accord.
dire.
J'ai eu une mention spéciale aussi, donc c'est accordé du coup.
Ok.
J'ai un dixième qui va peut-être vous surprendre. Je ne sais pas
Allez, on peut nous
si
rêver.
c'est un dixième parce que pour le troll, pour le décalage, je ne sais quoi, mais c'est le Batman de Zurenard.
Ah!
Et pourquoi pas? Et
Je l'ai mis
pourquoi
aussi.
pas? Je l'ai mis aussi, moi, un peu plus tard, ouais.
Parce que bah ouais, c'est autre chose. C'est autre
Ah bah
chose.
oui.
Et Morrison l'a utilisé de manière brillante
Ouais.
dans son run. Ce Batman qui vient d'une terre parallèle,
Ah,
etc.
l'idée, elle est ouf, hein.
Et voilà, ce Batman avec d'un costume très coloré à l'inverse de Batman, etc. Et ce qui me plaît, moi, dans ce personnage, tient en une seule phrase que lui-même dit, je suis ce qui reste de Batman quand on enlève Bruce Wayne.
Ouais,
C'est pas
ok.
faux. C'est pas faux.
Et effectivement, j'aime cette idée-là, que sans Bruce Wayne, le Batman serait complètement différent et ce serait ce Batman de Zurenard-là, un Batman avec un costume jaune, rouge et bleu, enfin, et complètement, bah, dans une personnalité complètement différente,
Oui.
etc. Voilà.
D'ailleurs, ce qu'en a fait Morrison, c'était génial, quoi.
C'est
D'en
très
faire
bien.
une
C'est très très bien.
personnalité piquetée dans son cerveau, c'est incroyable.
Oui, c'était. Donc voilà, le Batman de Zurenard en dixième place. Ouais, je voulais le mentionner. Et en neuvième, Anthony.
En 9e, ce sera le Batman version Lego.
Oui.
Notamment, voilà, de par le film qui est sorti en tout début d'année, qui, moi, m'a plié de rire. Du début à la fin, les private jokes pleuvent, les références, il y en a trop. C'est-à-dire que même, je pense, en une seconde, il y a trop de références pour qu'on les voit. Le doublage est parfait, les dialogues sont parfaits.
Le doublage en VO.
En VO, en
En
VO, quand même,
VO, en
attends.
VO.
En VO. En
Ça, je
VO,
vais préciser
évidemment.
pour ceux qui nous écoutent, sur un
En
malentendu,
VO!
on a pu croire qu'on a aimé Antoine Griezmann.
Non, 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 pas non plus
C'est
dégénéré.
Blaise Matuidi.
C'est
Non,
ça.
non, c'est vraiment sous l'aspect décalé, il y a une vraie recherche, un vrai travail de fond sur le personnage et tu sens que
Oui, ils ont bossé comme des
c'est
malades.
Chris Lord et Phil Miller, ça?
Oui.
Ok, bah tu sens que.
Phil Lord et Chris Miller.
Ok, c'est l'inverse.
C'est
T'es
Phil Lord
sûr
et
que ce
Chris Miller
sont eux
pour moi. Phil Lord et
T'es
Chris
sûr
Miller.
que ce sont eux qui font le film? Ou juste ils le scénarisent? Parce
Bon,
que pour moi, ils sont au
c'est déjà très
premier.
bien de l'avoir scénarisé.
Chris McKay, le réalisateur, et scénario, c'est pas eux non plus, hein, c'est
Ok,
Seth
bon,
Brian
je
Smith.
suis pas du tout.
Mais ils
Moi,
sont à
je
la
pense.
production. Ils sont à la
Ok.
production.
Bon, ils sont dedans, quoi.
Bah, en tout cas, ouais, moi j'ai trouvé ça. C'est une petite pépite dans le sombre paysage qu'est le DCU en ce moment. Là, ils
Non,
arrivent, bon, coup de
ça
poing
fait
dans
du
la
bien
gueule.
d'avoir un Batman au cinéma en plus. Voilà. Je l'ai mis en septième place dans mon classement.
Et en plus, c'est animé, mais c'est incroyable.
C'est bien animé. Il y a les petits bruits Lego avec les petites briques qui se
Ouais,
mouvent.
ouais, ouais.
Il y a tout est là. Dès le début, avec le petit. Enfin, voilà, moi, j'ai été conquis quand j'ai vu quelqu'un dans la foule au début quand il a acclamé quelqu'un qui tenait un panneau Batman Forever. Moi, j'ai dit, c'est bon, allez. Donc, ce film sera génial. Et effectivement, voilà, il a été génial. Et c'est pour moi un des meilleurs films Batman, hein, qu'on ait pu nous proposer au cinéma.
Je plus sois.
Bah, c'est.
Moi, il faudrait que je le mette quelque part, mais j'ai pas vu le film encore, donc il faut
Ah
absolument
bah oui, il faudrait que tu le vois
que je
effectivement. Donc moi je l'ai
l'arrange
mis du
le
coup en
film.
septième place de mon classement. Et pour mon neuvième, parce que du coup tu en as un neuvième Léo, ou si
J'en ai
entre
un,
ça
j'en
en
ai
a
un.
rajouté ou pas?
Oui, non, j'en ai un, bah justement, c'est là que je placerai Zurenard, tu vois,
D'accord.
parce que pour tout ce que tu as dit, parce que c'est spécial, parce que tant qu'à choisir un Batman un peu hors des sentiers battus, autant prendre celui-là et pas Batman versus Predator.
Oui, c'est clair. Mon neuvième, parce qu'on ne peut pas parler de Batman sans parler d'eux, le Batman de Bill Finger et Bob Kane,
Ok.
qui sont quand même les créateurs, hein, les papas
Bien
du
sûr.
personnage. J'ai lu il y a quelques années les TPB, les Batman Archives en TPB, qui prenaient d'ordre chronologique depuis la création du personnage. Donc il y a tout, effectivement, le Bill Finger et Bob Kane sur tout le début, évidemment. Et ouais, voilà, c'est eux. C'est quand même grâce à eux que maintenant on peut avoir tous ces trucs-là et qu'on a pu parler de tous ces grands scénaristes, de tous ces artistes qui sont passés sur le personnage. Voilà, si ces deux-là n'avaient pas été là, et en plus ce qu'ils ont fait était plutôt bon, quoi. Ils ont quand même créé des personnages qui, 75 ans après, voilà, le Joker,
Perdure.
On ne citait que lui, Gordon, enfin tout c'était là, quoi. Tout c'était là, Robin, c'est eux aussi qui posent l'idée de Robin, enfin. Et leurs histoires sont bonnes. Enfin, c'est autre chose, ça a vieilli, évidemment. C'est la moralité aussi des années 30-40, surtout. On est dans autre chose, dans une autre manière d'écrire, de raconter des histoires, d'autres thématiques aussi. Mais c'est à lire pour les fans de Batman. Voilà, vous devez au moins lire quelques passages de bah, des pères fondateurs. Là.
Je plus sois.
Nous allons augmenter, nous allons passer à la 8e place de notre top, Anthony, pareil.
Le Batman de la Terre 1. Pour tout ce qu'on a dit avant,
Quelque chose qui
je
arrive, Franck.
réinvente, je modernise, je réécris tout en étant très respectueux du matériel initial. Donc voilà.
Léo, tu aurais un... Est-ce que tu as mis celui-ci, toi? Batman Terre 1 quelque
Non,
part?
je ne
Toi,
l'ai
non?
pas mis. Je ne
Non.
l'ai pas mis.
Moi non plus. Est-ce que tu as un 8e du coup?
Mon 8e, ce sera le Batman des jeux vidéo Arkham. Parce que, bon, on en reparlera quand Anthony aussi
Ok, ça
remettra
marche.
son truc, mais moi, mon, voilà, j'ai joué aux 4 Arkham. Pour moi, c'est la référence. Pour moi, c'est une quintessence. C'est un des jeux qui a compris Batman, tu vois, qui a su coller, tu vois, à ce qu'ont pu faire les films, à ce qu'ont pu bâtir les adaptations, tout en étant relativement autonome dans ce qu'il raconte. Il a réinventé tout un. Enfin, il s'est réinventé un mythe, hein, comme l'Arkham Knight, dont je dévoilerai
Moi.
rien. Enfin, il a réinventé un mythe. Enfin, pour moi, ça a été une déception par rapport à la fin d'Arkham Knight. On verra si on se parle tout à l'heure. Mais
Ok.
et puis sinon, bien sûr, il y a Arkham, voilà, Arkham City, Arkham Origins, c'est surtout Arkham Asylum. Moi, c'est Asylum que je retiens, qui pour
Ouais,
moi
aussi.
est peut-être le meilleur. Voilà. Les autres Origins, je crois que c'est. Alors, en fait, parfois j'ai des trous, donc je me demande, je sais plus lequel est lequel. Mais City m'avait plutôt plu. Origins m'avait relativement déçu. Arkham Knight m'avait relativement déçu aussi. Donc, mais bon, ça reste de bonne facture. Mais moi, je reste sur Asylum, quoi.
Du coup, Anthony, tu l'as placé aussi dans ton top, j'imagine. Donc, à quelle place?
Je l'ai passé à la quatrième. Vas-y.
D'accord. Tu as des choses à rajouter par rapport à ce qu'a dit Léo?
Bon, ok, je vais donner mon avis maintenant, ce sera fait.
Vas-y,
Oui,
vas-y.
voilà, pour pas répéter, on
Ok,
préfère.
ouais. Bah, moi, je trouve que ouais, quand c'est sorti, Arkham Asylum, c'était en 2009, je m'en souviens très bien. J'ai rarement pris, je crois même jamais pris une claque comme ça. Parce que c'est le Batman que j'adore, le Batman très physique, et là, du coup, qui enquête en plus. En plus de proposer quelque chose d'inédit et de pur sur le Batman, c'était documenté. Je voyais que les développeurs étaient passionnés vraiment par tout cet univers qu'est le Batverse.
Ah, clairement, clairement.
Et puis c'était, enfin, ça a révolutionné véritablement le gameplay des jeux d'action à la troisième personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les systèmes de combat avec parade-riposte, contre, système de combo, on le doit en partie à Batman Arkham Asylum. Donc voilà, ce sera mon préféré de la trilogie. Ça a été à chaque sortie de jeu, ça a été aussi un standing graphique. Voilà, quand c'est sorti sur 3.6, Asylum, ça a imposé énormément de claques. Enfin, c'était une vraie claque. En plus, sur PC, il y avait des options graphiques absolument incroyables, des effets de particules qui étaient assez ouf pour l'époque. Arkham City, moi aussi, ça m'a un petit peu plus déçu, notamment par scénario, qui là a été écrit intégralement par Paul Dini, qui a un peu cousu de fil blanc. Maintenant, ça avait le mérite de proposer d'autres boss, d'autres personnages qu'on voyait moins. Ça, c'était cool. Ça a été aussi la première fois qu'on avait un monde ouvert sur le personnage de Batman. Arkham Origins, je l'ai pas fait, donc je peux pas dire. Et par contre, Arkham Knight, donc c'est le premier et pour l'instant le dernier qui est sorti sur nouvelle génération, donc PS4 pour ma part. Alors graphiquement, j'ai rien à dire. C'est incroyable.
Ah non, il est très beau. Puis
C'est
la Batmobile.
ouais. Alors la Batmobile, oui, le design me plaît. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est l'écriture du Batman qui est débile, vraiment débile. Un Batman qui repose là pour le coup que sur ses atouts physiques, qui est un Batman en armure, qui est un Batman qui a du gun sur sa Batmobile, je déteste. Et du coup, le deuxième point, c'est le gameplay. De par l'imposition qu'ils nous ont fait de la Batmobile,
Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment accro en fait. On
putain,
est.
c'est lourd, mais c'est ultra lourd.
Et puis, enfin, en fait, là où toutes les autres Arkham disaient, enfin, montraient qu'il y avait un tout, tu vois, en effet, sur ce que tu as dit, sur le détective, les actions, etc., qui fait que c'est
Là,
pas
non.
juste un jeu Batman, c'est un jeu. Là, en fait, il y a plus cette dimension que tu peux prendre, genre, soit en un jeu de combat, détective, machin, tout ça, et à la
Ouais.
fois jeu Batman. Là, tu as
C'est un putain de jeu de course, hein.
limite une obligation. Voilà, tu deviens accro à la Batmobile. Et surtout, il faut savoir la diriger parce que parfois elle vire un peu dans
Ouais,
tous les sens.
c'était. Ils avaient bossé leur truc. Ils avaient vraiment bossé l'approche Batmobile, mais du coup, n'avait plus de dire est-ce que je le passe en infiltration, est-ce que je le passe en combat. C'était bah je le passe à la Batmobile. C'est ce qui est complètement idiot, ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'est Batman, de par toute la multitude de possibilités qu'a le personnage, rien que de par ses aptitudes physiques et intellectuelles. Là non. Mais c'était une succession de combats dans les rues d'une Gotham vide. Pareil, pourquoi ne pas avoir fait une Gotham, parce que là on jouait dans tout Gotham. Pourquoi ne pas avoir fait, alors c'était expliqué scénaristiquement, mais Gotham était vide. J'aurais vraiment adoré faire des courses-poursuites dans une Gotham peuplée où tu poursuivais le Joker en hommage à ce numéro de pareil de Paul Dini où qu'il embarque Robin dans sa voiture, dans sa bagnole, ça aurait été génial. Et non, on a un vieux truc militarisé dégueulasse. Enfin, vraiment, énorme déception que ce Batman
ouais,
Arkham
Knight. Même autour du Arkham Knight, quoi. Enfin,
ah ouais,
au bout, c'est quand t'arrives au bout, là, mais oui, enfin, c'est-à-dire que moi, au bout de quelques heures de jeu, je savais qu'il était Arkham Knight parce que c'est pas si difficile ouais, au final, quoi.
Puis c'est, vraiment, c'est en plus dommage. Là aussi, le personnage a été créé par Paul Dini. Enfin, il se fout de notre gueule, quoi. Franchement, non.
C'est dommage. Pour un dernier, en plus, c'est vraiment dommage.
Mm-hmm. En vous écoutant parler, je me suis dit qu'en fait, Zack Snyder, il a dû jouer à ce jeu-là parce qu'il passe tout à la Batmobile aussi.
Ah, mais Zack Snyder, il a rien. Enfin, ils sont c'est un jeu. Comment dire. Ils jouent en double, hein. Snyder et Batman Arkham Knight, c'est pareil, hein. Mm.
Ok. Pour terminer avec cette huitième place de nos classements respectifs, Monsieur Adam West est à ma huitième place pour sa version de Batman dans les années 60.
Et moi, je l'ai mis, Adam West, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis en quatrième position.
Oh, t'as déjà mis quelque chose en quatrième position tout à l'heure, non?
Non.
Ah bon, d'accord. C'est moi qui mélange vos classements respectifs. Eh bien, belle place pour Adam West dans ton classement. C'est cool. Tu l'as mis Anthony, toi? Je ne pense pas.
Non, je l'ai pas mis.
Ouais. Septième place pour tout le monde, bah, sauf pour moi, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est Lego Batman à ma septième position. Anthony?
Moi, c'est le Batman dans Identity Crisis.
Mm-hmm.
Parce que c'est un Batman qui... Une des rares versions où c'est Batman qui est manipulé par ses, on va pas dire collègues, puisque c'est pas vraiment le cas, par ses coéquipiers de la Justice League, parce que c'est un Batman qui est à vif, qui est faillible. Je vais rien spoiler parce que pour ceux qui l'ont plus, même si c'est encore, si c'est vieux, il y a vraiment beaucoup de découvertes. C'est un Batman qui a ses propres peurs, qui a ses propres démons, on voit l'attachement qu'il a au Robin, et c'est quelque chose qu'on a rarement lu. Notamment récemment. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette version.
Très bien. Ton septième, Léo?
Mon septième, c'est un Batman un peu spécial qui n'apparaît que dans un truc et qui n'est même pas forcément lié à l'univers de Batman et qui a un côté iconique, c'est le Batman version Thomas Wayne, version Flashpoint.
Ah.
Parce que c'est un autre type de Batman pour le coup. Une version violente, tu vois, toute la déchirure, le truc et tout. C'est-à-dire ce qu'aurait pu devenir Batman quelque part, un petit peu ce qu'on nous montrait, un Batman qu'on aurait clairement pu avoir. Alors là, c'est plus le même rapport parce que c'est le fils qui a perdu ses parents. D'habitude, là, c'est le parent qui a perdu son fils et qui en plus a la mère qui est devenue Joker, etc. Donc c'est un Batman qui est profondément bouleversé, etc. Et à chaque fois que je relis Flashpoint et que je relis ou que je revois le film, etc. Là, ça me fait un petit truc, tu vois, de se dire que voilà, dans la douleur, tu peux mettre le parent et l'enfant et tout ce que ça implique en termes émotionnels et tout. Moi, je trouve ça très bien, donc je l'ai inclus.
Ouais, il est dans mon top aussi. Il est à la troisième position, notamment la mini Night of Vengeance, que là, pour le coup, Mathieu m'a poussé énormément à lire. Je l'ai pris d'occasion et c'est honnêtement, je sais pas si c'est bien ou pas de dire ça, on va dire, mais c'est un peu le Killing Joke récent. Honnêtement, cette mini, j'ai trouvé ça déjà culte.
J'ai également le Batman de Flashpoint, Thomas Wayne par Azzarello dans mon top, et il est à la première position.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est mon Batman. Le Batman pour moi, c'est celui-là. C'est pas Bruce Wayne. De toute façon, vous allez voir, hein, sur mon podium, Bruce Wayne est très peu présent. Voilà, Batman, Thomas Wayne par Azzarello, Eduardo Risso, cette mini Night of Vengeance. Voilà, c'est incroyable. Alors, il est presque ex-aequo avec mon deuxième. Vous verrez plus tard qui c'est. Mais ouais, c'est. Quand je l'ai lu, c'était tellement quelque chose qui m'a surpris, qui m'a pris au trip et qui m'a renversé.
C'est très fort.
Ça m'a renversé.
Très, très fort.
Et Voilà, il fallait quelqu'un d'aussi grand que Monsieur Azzarello pour faire ça.
Surtout que ça tient en trois, quoi. Ça tient en trois numéros,
et c'est une histoire qu'on voudrait voir se continuer sur des années. Moi, j'ai envie de le voir, j'ai envie de l'avoir, cette série continuer, d'avoir une suite, de savoir comment ça s'est passé avant, comment ça se passe après, si cette histoire, si cet univers avait duré, quelles aventures il a vécu, parce qu'il en a vécu des tas d'univers, comment Joker s'est devenu ce Joker.
Ah, putain, ouais.
Je veux tout savoir de cet univers. Et il y a peu de versions de Batman qui me donnent cette envie, à part celle-là.
Déjà en trois numéros, ce qu'il arrive.
Oui. Ah oui, il en casse beaucoup de choses.
C'est vraiment
ouf. Et dans chaque idée.
Comment ?
Knight of Vengeance.
Knight, ouais, comme pardon. Le chevalier.
Knight of Vengeance.
Ouais. Et dans chaque idée, dans chaque page où il pose une idée sur ce Batman-là, son passé, etc., il y a une mini-série qui pourrait découler de ça.
Ah oui, c'est suffisamment dense pour tenir.
C'est un puits à mini-série, ce truc-là.
Non, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi travaillé. Sur une mini-série, sur un espèce de tie-in soi-disant pourri, un event classique. D'habitude, c'est souvent très moyen. Et là, mais mon Dieu, quoi.
Il y a eu quelques grandes séries là-dedans. J'avais bien aimé aussi celle de Superman.
Oui, le Superman de Flashpoint a beaucoup de potentiel, effectivement.
Qui était très, très sympa. Bon, on s'éloigne du Batman, là, en parlant de ça. Mais voilà, Batman de Flashpoint, Thomas Wayne par Azzarello, c'est mon numéro 1. Nous allons pouvoir passer au numéro 6, puisque tout le monde a dévoilé son 7e.
Ouais.
Vas-y, Anthony.
Moi, c'est le numéro 6, c'est le Hellbat. Donc, c'était la version Batman augmentée pour Apocalypse dans la fin de la série Batman et Robin, où lorsque Robin, spoiler, se fait buter, en fait, son corps est rapatrié sur Apocalypse. Mmh. Et là, Batman, dans un excès de rage absolue, enfile une armure dont je ne sais pas d'où elle sort. C'est une armure qui est spécialement designée pour affronter Darkseid, tout simplement. Et donc, on voit Batman qui punch à gros coups de savate Darkseid. C'est un peu neuneux, mais ça marche tellement bien. Puis là, on voit toute la rage vraiment d'un père qui veut récupérer, non pas son fils, mais la dépouille de son fils. Alors, sous l'aspect très blockbuster du titre, il y a un vrai message profond, quoi. Donc, ça m'avait beaucoup plu. Ce petit arc.
Hunt for Robin, je crois, s'appelait l'arc.
Ouais, je crois que ça me dit quelque chose aussi.
Apocalypse, juste avant Robin Rises.
C'est ça.
Ouais, écoute, sympa. Tu l'as placé, toi, Léo, celui-là ? Je pense pas.
Celui-là, non.
Non, alors quel est ton sixième ?
Mon sixième, c'est le Batman de version Michael Keaton, parce que bah voilà, je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, et pour moi Burton en fait partie, et Burton Keaton, ça a été une alliance qui a bien lancé Batman au cinéma, si on excepte 66 bien sûr, c'est ce qui a lancé avec un certain brio, à mon sens, tout ce que peut être Batman et ce qu'il a pu être. Donc voilà, je pense qu'il fallait que je le mette, donc je le mets là. Voilà.
D'accord. Et pour moi, le sixième, on en a déjà parlé tout à l'heure en long, large, en travers, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est le Batman de Paul Dini.
Ok.
Pour son run dans Detective Comics. Allez, cinquième place, on a deux premières moitiés du classement, donc là on devrait tomber sur des trucs un peu de très haut niveau maintenant. Anthony ?
C'est le Dark Knight, donc Nuit sombre, de Paul Dini, le tout récent graphic novel. Où en fait là c'est plutôt plus que le personnage, c'est l'idée et le message que porte le Batman qui est au centre de donc du bouquin, et ça m'a vraiment pris au trip tout ce que soulève Paul Dini, en plus avec le passif qu'il a autour du personnage, enfin ça m'a vraiment embarqué, ça m'a ému, c'était super.
D'accord. Léo, ton cinquième, à moins que tu aies placé celui-là déjà.
Non, c'est pas celui-là, et mon cinquième c'est le Batman dans adaptation et comics confondus, le Batman de Dark Knight Returns via Frank Miller du coup, parce que c'est l'une des premières choses, en fait j'avais cet album depuis longtemps chez moi, enfin mon père l'avait acheté déjà il y a des années, et en fait je me suis rendu compte que c'était celui-là, que c'était un truc de Frank Miller et que c'était quelque chose qui avait une portée que plus tard quand j'ai grandi, donc Bah pour moi, ça a une espèce de petite valeur, une petite valeur symbolique. Et puis surtout, même pour l'histoire, pour la version de Batman. C'est-à-dire que quand tu te lances dans des Batman à des extrêmes relativement temporels, genre que tu tentes un truc un peu différent avec Thomas Wayne ou que tu ailles Batman, genre Year One à ses débuts ou Batman à la fin, comme dans Returns, alors qu'il est sur le point de mourir, etc. Voilà, il y a des planches, il y a des plans qui m'ont marqué et je le garde indépendamment de ce que représente Frank Miller pour moi en termes politique, n'est-ce pas? Je pense que lui aussi a quand même contribué à Batman et celui-là en fait partie. Voilà.
D'accord. Mon cinquième, du coup, c'est le Batman de Long Halloween par Jeff Loeb.
Ok.
Voilà, parce que c'est parmi les Batman Bruce Wayne en tout cas. Hein, d'ailleurs, c'est le Batman Bruce Wayne le plus haut dans mon classement quasiment. C'est l'image que je me fais le plus, enfin que je me fais le plus du Batman avec Bruce Wayne sous la cape. Il y a tout, il y a le détective, il y a le côté street, il y a le côté sombre, voilà, tout est là dans
Ben
cette
moi,
version.
il est à la troisième position à égalité avec Scott Snyder. C'est pas pour la qualité des mecs, etc. Mais parce qu'en termes de claque et en termes de comics, etc., c'est eux que je retiens et j'ai pas voulu les séparer. Donc, je les ai foutus à la troisième place du podium. Pour tout ce que tu as dit, hein, tout ce qu'on a déjà dit.
Ça me fait un peu de peine de
Bon,
tu les
ben,
as
non,
pas
mais je t'ai dit,
séparés,
ça n'a rien à voir. Oh.
mais d'accord,
Mais
j'accepte.
mon rapport au
Non,
comics n'est pas le même du tout.
t'inquiète, t'as le droit. Est-ce que tu as utilisé ce Batman dans ton classement, Anthony?
Non.
Non. Quatrième place, donc, du coup, Anthony.
Bah moi c'était la toute la saga Arkham avec le
D'accord.
point. Voilà.
Donc, moi, c'était le Digresson de Scott Snyder dans Dark Mirror, je l'avais dit. Et puis, du coup, pour Léo, on l'a déjà dévoilé aussi, c'est Adam West.
Mon quatrième, c'est Adam West, en effet.
C'est ça. Donc, on va passer sur le podium maintenant. Troisième, Anthony.
Bah c'était le Night of Vengeance, Batman Flashpoint, Azzarello Risso.
Exact. Troisième, Léo.
Mon troisième, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est le Batman de Long Halloween et puis de la cour des hiboux, donc qui,
Ah
voilà.
oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié, tu vois. Et bah, du
Voilà.
coup, il reste que mon
Bah, non,
troisième.
bah, voilà.
Vas-y,
Ah oui, non, t'as perdu.
non, c'est bon, c'est bon,
Ah non,
tout le
c'est
monde a
bon.
toujours été là pour moi, donc c'est pas de souci. Donc du coup, je disais, il reste que mon Batman numéro 3, enfin que mon troisième, ma troisième place qui soit inédite et qui n'ait pas encore été mentionnée, je pense que ça va en faire tomber quelques-unes chez vous, puisque c'est le Batman de la saga animée de Bruce Timm.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a besoin de la
Et
présenter? Est-ce qu'il y a besoin de dire pourquoi je mets ça en troisième? Mes bobos céréales du
mais
matin,
bah,
je
tu...
le Batman
bah,
Tasse?
euh...
Ouais, bah
bah
moi il est
moi
en
je
premier.
te bah voilà moi aussi je te réponds en disant qu'il est en premier.
Je l'ai pas mis en premier parce que je savais très bien qu'il allait être en premier chez quelqu'un d'autre et parce qu'il y a ces deux autres qui sont juste un cran au-dessus pour moi. Mais là, voilà, c'est le Bruce Wayne le plus haut de mon classement cette fois, je peux le dire. C'est le Batman de Bruce Timm.
Ouais, moi il est en premier parce que je matais ça quand j'avais entre 4 et 6 ans à la télé le dimanche. Donc c'est un peu ma.
Putain!
Bah c'est sorti en 90, je suis né de 4, je suis en 80, je suis de 94, donc voilà.
Je
Le
comprends, bah,
calcul est
du
vite
coup.
fait. Voilà, ça m'a vraiment suivi. Je me suis rematé toute l'intégralité de l'animé récemment. C'est toujours aussi bien écrit. Il y a des tonnes et des tonnes de sous-textes, de messages différents, de niveaux de lecture. Donc c'est ce qui se fait mieux, je trouve, sur le personnage de Batman.
Ah,
Et
je suis
puis
d'accord
Harley Quinn.
pour tout ce que tu as
Oui,
dit, je vais
la création de Harley
le
Quinn
mettre
aussi.
en premier, iconique, tout ce que tu veux, enfance, machin, enfin,
Et voilà, évidemment,
Anthony.
c'est le Batman ultime. Oui, voilà. Version, effectivement, Bruce Wayne pour moi, parce que finalement, je me suis aperçu dans ce classement que Bruce Wayne n'était pas du tout mon Batman préféré. Au final, j'ai jamais autant aimé Batman que quand c'était pas lui sous le manteau.
Comme quoi.
Bizarre.
Bizarre.
Ton troisième, Léo, tu ne l'as pas. Si tu l'as dit, c'est bon, tout le monde l'a dit. Deuxième, du coup, sur notre classement, Anthony.
Le deuxième, c'est le Batman 666 de Morrison.
Le fameux.
Parce que c'est le. En gros, c'est quand ça se passe dans le futur. C'est pas forcément alternatif, mais c'est un bond dans le futur. Et c'est en gros Damian qui a repris le costume. Et du coup, c'est tout ce qui est plus ou moins Damian enfant. C'est-à-dire qu'il est insolent, il est brut de décoffrage, il n'est pas forcément très réfléchi. Il est rentre dedans, mais il a, tu sens que le personnage a fait, a travaillé sur lui-même, a essayé d'apprendre tout ce qu'a tenté de lui enseigner son père. Et il y a cette dualité entre les, voilà, les deux, plus ou moins deux personnalités en final, hein, qui s'affrontent dans ce personnage. C'est un numéro. Ça a aussi fait l'objet d'une mini après que j'ai pas lu. Je me suis vraiment content de ce truc-là. Le style graphique est tellement stylé avec ce Batman dans cet impair, avec un peu le col qui remonte à l'Iron Fist. C'est vraiment ultra stylé. Du coup, c'est un Batman qui est très violent parce que le passif de Damian fait que, voilà, on est sur une Gotham en proie au chaos total. Donc c'est un des premiers univers alternatifs que j'ai lu sur Batman et ça m'a tellement étonné parce que j'étais pas spécialement habitué à ce type de lecture sur ce personnage-là. Donc cette version-là.
D'accord. Léo, ton deuxième?
Mon deuxième, parce qu'il fallait, en fait, voilà, mon top, c'est mon top 3, c'est donc.
Ah putain, Gotham est encore pas arrivé, merde.
Ah non.
Vous allez être déçu, hein, parce que y a pas de Gotham dans mon,
oh,
dans mon top.
Oh, c'est non. Cool.
Tu vois, je veux dire, y a pas de Batman dans Gotham, hein, donc non, j'allais pas le mettre, donc ça s'est jamais posé, la question s'est jamais posée. Pour moi, y a un top 3 qui est fait de voilà comics, séries animées et films. Voilà, bon, il y a les jeux vidéo, mais c'est un peu c'est à part, et puis tous, voilà. Donc le deuxième, ce sera le Batman de Christian Bale, parce que c'est celui qui me parle le plus, parce que voilà, j'aime Christian Bale, j'aime ce qu'il en a fait, j'aime ce qu'a fait Nolan, et pour moi, en termes d'articulation cinématographique comics, c'est quelque chose de très très grand, et c'est ma version de Batman préférée, donc c'est celui-là que je mettrai en numéro 2.
D'accord.
D'ailleurs, juste sur le Batman version de Damian, je pourrais juste, ça m'est revenu là, citer aussi la mini, le one-shot The Just, Multiversity The Just, oui. Où on le voyait aussi dans une société complètement pervertie par la publicité, tout ça, c'était mon, d'ailleurs, c'est mon numéro préféré de The Multiversity.
Ouais. Oui, c'est incroyable celui-là. Ouais, il y en a quand même d'autres, je ne saurais même pas dire lequel est mon préféré dans Multiversity. Mais on parlera de Multiversity quand ça sortira en VF, c'est obligatoire. Si un jour ça sort en VF. Coucou Urban. Du coup, ouais. Bah ouais, ça fait chier quoi. Mon deuxième, du coup, c'est aussi du Morrison. Et c'est la période Dick Grayson de Grant Morrison. C'est le Dick Grayson sous le costume, quand il reprend le flambeau après la disparition de Bruce et qu'il a cette relation avec Damian Wayne qui est absolument parfaite. Le Batman et Robin, le tandem Grayson-Damian, c'est incroyable. Cette relation de frères ennemis en permanence. Avec l'ombre de Batman qui plane au-dessus d'eux. Ouais, c'est fort, c'est très fort. Et ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu du Batman de cette qualité.
Exact.
Ok.
Ouais, tac, ouais. Et notre première place, du coup, à chacun. Anthony, tu as dit que c'était la série animée ?
Oui.
C'est ça. Pour ta part, Léo, c'est aussi la série animée. Et pour ma part, du coup, c'est le Batman de Flashpoint, Thomas Wayne, par Brian Azzarello. Eduardo Risso, faut quand même le citer aussi, hein, qui est autodessin. Oui. Voilà, nos trois numéros ont été révélés. Je vais juste, tant que je suis sur le Batman de Flashpoint, vous préciser pour ceux qui l'auraient manqué que ça va ressortir chez Urban le 5 mai dans un bouquin qui s'appelle Batman Cité Brisée, qui compile tout le passage de Azzarello et Risso sur Batman. Donc il y aura les 6 numéros qu'ils ont fait, les 620 à 625 de Batman, le Night of Vengeance numéro 1 à 3, donc la mini-série de Flashpoint, Wednesday Comics numéro 1 à 12 et Gotham Knights numéro 8. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'ils ont fait sur le personnage. Ça coûte 22,50€, ça fera 264 pages et ça sort donc le 5 mai. Donc si vous voulez ne pas rater, ce qui pour moi est...
C'est honnête.
Non, c'est très honnête. Ça va être un bon...
Le titre est nul, mais c'est honnête.
Le titre est nul, oui et non, parce que vraiment, cette Gotham brisée, c'est vraiment le point commun de toutes les histoires qu'Azzarello et Risso ont fait sur le personnage.
Tant qu'à faire, autant mettre Gotham brisé, tu vois. C'est comme mettre les tourments de double face pour un truc qui s'appelle Batman Jekyll and Hyde. C'est-à-dire que les traductions sont pas forcément inspirées, je trouve. Mais
j'aime bien le mot cité brisé. Enfin, on va pas polémiquer sur le titre, mais
oui, voilà. Non, mais enfin, c'est pas nul, tu vois. J'exagère, mais je trouve qu'ils peuvent, ils font pas forcément.
Peut-être qu'il y a un ouvrage qui collectait ce run-là qui s'appelait Broken City.
Peut-être.
Chose comme ça. Et ils ont garné.
Sûrement.
Avec du coup l'analogie assez sympa avec Gotham City, Broken City au niveau sonorité. Ouais. Bref, on va pas débattre sur ce titre. Sachez que ça ressort le 5 mai. Voilà, pour ceux qui ont raté cette version de Batman qui est trouvable que d'occasion sur le kiosque Flashpoint numéro 2. Pour ceux qui veulent le chercher sur les sites d'occasion. Donc voilà, on a égrené nos 10 Batman préférés. Anthony, je sais que tu avais une mention spéciale, j'en ai une aussi. Donc vas-y, c'est le moment.
Donc j'avais du coup le Batfleck, j'avais tout le travail de Nolan, Donc on a plus ou moins décrit tout ça. J'avais le Batman de Jeff Lubb et Tim Sale. Et j'avais le deuxième point Marvel, Nighthawk, qui est, je l'ai quand même casé, qui est véritablement le Batman de l'univers Marvel. Et je vous invite à lire Le Squadron Suprême pour en savoir plus.
J'avais deux trucs moi dans mes mentions spéciales, j'en ai oublié un, je me sens ridicule du coup, mais quand même je mentionnerai l'autre dont je me souviens encore, qui est le Batman and Robin numéro 18 de Peter Tomasi et Patrick Gleason, qui est pour moi lui aussi, là aussi, une espèce de condensé en 20 pages sans aucune parole de ce qu'est le Batman. Il y a tout dans ces 20 pages. Et c'est peut-être le plus grand numéro de Batman que j'ai pu lire. Donc voilà, je pouvais pas le mettre dans le classement. Mais quand même, quoi, il mérite d'être cité, d'être mentionné comme voilà mention spéciale. Un peu en dehors. Et je me rappellerai décidément pas du deuxième. Donc bah, c'est pas grave. Ce sera dans les limbes de l'oubli.
Bah c'est Zack Snyder.
Bah évidemment.
Sûrement.
Ou alors c'est le Batman dans Suicide Squad. C'est encore plus.
Ah ben non, alors là ça y est, du coup grâce à toi je l'ai retrouvé. Bah alors, ça n'a rien à voir. Non, ma vraie mention spéciale initiale, c'est Batman dans Gotham Central. Le Batman qu'on ne voit jamais mais qui plane sur tout le monde. Voilà.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ouais, c'était génial ça.
J'ai pas réussi à le mettre, j'aurais voulu le mettre dans mon classement, mais à partir du moment où on le voit pas, c'est une version de Batman. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on ne le voit jamais, mais c'est une version de Batman quand même. Il a un poids tel sur cette série Gotham Central qui fait partie de l'histoire sans qu'on le voit.
D'ailleurs, c'est de l'intégralité dispo chez Urban en 4 tomes. Ouais, c'est vraiment super ça.
Et bien voilà, pour conclure du coup cette émission un peu plus longue que les autres, mais bon, retracer le meilleur de plus de 75, bientôt 80 années d'un personnage voilà, aussi emblématique et aussi prolifique dans tous les médias que Batman. Voilà, il fallait au moins ça et on est loin du compte, on est très très loin du compte. N'hésitez pas, vous, à nous dire aussi quel est votre scénariste, artiste préféré sur tout ce qui a eu lieu dans l'histoire de Batman, votre adaptation préférée, quel serait peut-être votre classement, votre Batman ultime, qui est le Batman pour vous, qu'est-ce qui représente le plus le Batman. N'hésitez pas à nous faire part de tout ça dans vos commentaires sur le site ou alors sur Facebook, Twitter, ou même à nous envoyer un mail, redac@comicstories.com. FR, si vous avez d'autres suggestions d'émissions un peu dans le même genre comme celle d'aujourd'hui, Batman versus Batman, nous aurons bientôt petit teasing, hein, Bendis versus Bendis. Vous comprendrez pourquoi quand on vous fera l'émission. Ils sont très très attendus par Anthony notamment, mais par moi.
Ah bah, y a beaucoup de choses à dire quand même.
On va en découdre sur le monsieur. Voilà, si vous avez d'autres versus à vous suggérer, bon, on est preneurs. Et puis si vous voulez venir participer à ces émissions-là, bah, n'hésitez pas non plus, tout comme pour écrire sur comicstories.fr. On avait juste qu'à nous contacter. Voilà, allez, on se retrouve très vite maintenant pour la numéro 268 que je vous garde au chaud depuis bien trop longtemps. C'est la première partie de notre tour d'horizon du DC Rebirth, des premiers tomes qui vont bientôt arriver en librairie chez Urban. Donc vous allez avoir un petit peu nos avis à Robin et moi concernant dizaines de tomes, et puis on reviendra plus tard pour en faire d'autres, essayer de balayer un petit peu toute la production Rebirth pour permettre de faire votre choix parmi tout ce qu'Urban va proposer et parmi aussi ce qu'Urban ne proposera pas, puisqu'il y a du très bon dans ce qu'Urban ne proposera pas. Voilà. Allez, bonne fin de journée, soirée, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez, et évidemment, bonne lecture et à très vite.
Salut.
Salut, salut.